Bonjour à tous et bienvenue.
Pardon.
Ce passage sera laissé au montage. Note au monteur. Non, parce qu'il n'y a pas de raison. Moi, j'ai droit au RER. Faut que tout le monde sache. Mais
c'est pas de bol en plus.
En plus, moi, j'allais lui pourrir son intro en lui faisant style. Ah, t'es venu, c'est valoir que je croyais que c'était moi qui présente. Mais non, mais allez-y, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, un mag, le dernier avant la pause. Bon, moi, je vais pas me plaindre, c'est pas que j'ai foutu grand chose cet été dans le SAV de la F1.
Franchement, t'as rien foutu, c'est dingue.
C'est ça quoi, dire que tu vas partir en vacances alors que tu viens à peine de rentrer, franchement, c'est... Ces oui. Gens qui font même pas 35 heures, c'est...
Oui, mais il était important que je rentre. Hein, j'aurais pu prendre des vacances plus longues. Et puis, j'ai entendu Ben se la péter. Oh ouais, c'est bien d'être présentateur du SAV de la F1, hein. Et deux, j'ai entendu un RER dans le podcast.
Ouais, mais ça, c'est le monteur qui était incompétent. C'est pas du tout,
Donc là, je me suis dit, faut que tu reviennes, hein. Faut que tu remettes de l'ordre dans ce bordel.
Et c'est pour ça que Elder n'est pas là ce soir.
Non, mais il déménage.
Il a pris le RER.
Oui,
c'est ça, il a pris le RER.
Alors, bonsoir Fab, bonsoir Ben.
Bonsoir.
Ah. Bonsoir.
On a une pensée pour Jenny qui devait nous accompagner ce soir. Malheureusement,
la
clim a été plus forte qu'elle.
Jenny, bonsoir.
Ça va, messieurs? C'est un bon été?
Bah écoute, ouais, pas mal.
Fait pas trop chaud en Belgique?
Il fait moins chaud que la dernière émission, pour te le dire. J'ai terminé l'émission.
Ah, donc t'es habillé cette fois.
Il faisait 29 degrés, et ici, il fait un petit 24, voilà.
Oh, ça va.
Ça va, c'est gentil.
C'est soft.
Et à noter qu'en cours d'émission, encore une fois, tel Shipper le renard devrait débarquer, peut-être, Gus Gus.
Shipper le renard.
C'est un peu devenu sa spécialité.
Ouais, enfin, c'est juste le temps de dire bonjour, hein. Après, il s'en va tout de suite.
Non, faut qu'il reste au moins jusqu'au répondeur.
Pense qu'il va se prendre à ta gueule. Je sais pas pourquoi.
Non, mais on peut pas rivaliser avec le ta gueule de Margot. C'est...
Ah oui.
Ah, il était sec.
Il était tellement beau, tellement.
Surtout qu'il y en a eu deux des ta gueule. Parce que, il faut quand même raconter qu'il y a la petite popote interne. Qu'au départ, c'est Dino qui s'est pris à ta gueule parce que il parlait et il y avait de la friture sur la ligne. Donc on comprenait strictement rien.
Oh, ça
et
change.
Pour le faire taire, Margot lui a dit ta gueule. Mais comme ça n'est pas resté au montage, blabla, voilà. Mm-hmm. Voilà pourquoi Gus Gus s'est pris à ta gueule.
Vraiment de fâcher avec beaucoup de monde, tout ça.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
On va commencer par le quiz, justement, le quiz ta gueule.
Ouais.
Cette semaine, c'est Fab qui a préparé une question.
Ah, vous direz, enfin. Enfin,
non, mais moi je me permettrai pas, tu vois. Je vais quand même pas me fâcher avec tout le monde tout de suite. Donc, moi, sur le coup, je fais un gueule.
Donc, messieurs, un petit quiz.
Stéphanie de Monaco.
C'est pas un chiffre pour une fois. Et c'est pas non
la
plus
mer noire.
Une héritière. La mer noire. Non. Je vais vous poser la question suivante. Ça peut aller très vite si vous avez bien travaillé. Sinon, ça peut être très long. Pourquoi David Ward pourrait faire parler de lui dans les mois qui viennent?
Il va remplacer Bernie?
Non, il va pas remplacer Bernie.
Ça a un rapport avec les futurs circuits?
Alors, ça a un rapport avec la Formule 1 et ça concerne pas les futurs circuits ou de manière très très indirecte. Mm-hmm. Bon, ça va, vous avez rien foutu. J'ai vraiment eu peur.
Bah non, vous savez bien que moi, de toute façon, ça fait plusieurs semaines que je suis sur ma 3DS, alors...
Elle marche bien d'ailleurs, oui.
Elle marche très très bien. Hein? Fire Emblem est un jeu formidable.
David Ward.
Ouais, c'est pareil, quelqu'un c'est qui est déjà dans le monde de la F1?
Il est pas dans le monde de la F1, bien qu'il ait, comment dire, bien qu'il ait contribué à la F1. de manière assez indirecte là aussi. C'est un Britannique, Ben. Mais voilà, il a pas. Enfin, comment dire? Pour le coup, lui est pas en contact direct avec la F1.
Mais il y a quand même un lien avec le sport auto.
Il y a un lien avec le sport auto par rapport à ce qui pourrait faire qu'on parle de lui.
Mais le sport auto en général.
Ouais, sport auto en général. Et par contre, il a déjà eu un lien avec la F1, mais par le passé.
Il a l'intention de s'investir d'une façon ou d'une autre en Formule 1.
Par définition, oui. Il devra s'y investir en tout cas.
Dans la F1 en général ou dans une équipe
Dans la F1 en général.
En général. C'est lié aux affaires autour de Bernie Ecclestone.
C'est pas lié aux affaires autour de Bernie Ecclestone, même s'il a été impliqué dans quelque chose qui n'est pas une affaire ou qui n'a pas été traité comme tel en tout cas, mais il a des liens avec Bernie Ecclestone, oui, ça c'est sûr.
Donc c'est plus dans le management de la F1.
C'est plus dans le management de la F1, oui.
Est-ce que ça pourrait être la FIA?
C'est la FIA.
Ah oui, c'est oui, c'est.
Ah, il est candidat
face à Jean Todt. Face à Jean
Vous auriez pu faire une phrase tout seul en même temps en chantant. Eh bien écoutez, j'ai décidé que j'attribuais ce tag-gueule à moi parce que vous l'avez dit en même temps. Non mais Ben tu dis ta et Shinji tu dis gueule. Vous ferez comme ça, faudrait être très synchro hein, sur ce
faudrait point. Être synchro ouais.
Non, donc vous avez répondu tous les deux à la question. David Ward, oui, il pourrait devenir candidat à la présidence de la FIA. Alors vous savez qu'à la fin de la saison là, au mois de décembre, il y aura un vote pour désigner le nouveau président de la FIA. Et donc, alors même si la candidature n'a pas été officiellement annoncée, il se murmure et lui a confirmé qu'il réfléchissait à l'opportunité de se présenter. Alors David Ward, il a 56 ans, il est membre de la FIA en tant que directeur général de la fondation FIA pour l'automobile et la société. Il est une œuvre de bienfaisance qui promeut la sécurité routière et la mobilité durable, c'est-à-dire une mobilité respectueuse de l'environnement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est avant tout, depuis la fin des années 90, un spécialiste mondial de la sécurité routière, hein, puisque selon sa fiche qui lui est consacrée sur le site internet de la fondation FIA, il œuvre dans ce domaine depuis 18 ans. Alors en soi, il est membre de différents organes, de différents conseils qui justement ont pour centre d'intérêt et centre de travail la sécurité routière. Donc en soi, en étant membre de la FIA, en ayant un tel parcours, il n'est pas incongru qu'il puisse prétendre à se présenter à la tête de l'instance. Malgré tout, on connaît bien le poste de président de la FIA et on peut se demander s'il ne faut pas aussi avoir un lien plus direct avec le sport automobile en particulier et notamment la F1 forcément. Et il faut savoir que David Ward était, donc si on remonte dans le passé, David Ward c'était un conseiller politique en Grande-Bretagne, conseiller politique de John Smith qui était leader du parti travailliste britannique de juillet 92 à mai 94 à sa mort. Alors lors de l'arrivée de Tony Blair à la tête du Parti travailliste en remplacement de John Smith, forcément, beaucoup de conseillers ont dû laisser la place, ont été chassés des hautes sphères du Parti travailliste pour que Blair y installe ses propres hommes. Donc là, du coup, David Ward et deux de ses collègues sont devenus, on pourrait appeler des conseillers en freelance, et plus globalement des lobbyistes, quoi. Et donc ça correspond aussi au moment où la Formule 1 dans le milieu des années 90 essaie d'attirer la sympathie des gouvernements et de la Commission européenne sur un dossier juteux, c'est celui de la manne financière des contrats de sponsoring avec les entreprises les cigarettiers quoi, l'industrie du tabac. Et donc c'est à ce moment-là que Ward va rentrer dans la danse avec ses deux amis puisqu'ils vont intervenir en tant que lobbyistes auprès de différentes personnalités, auprès de différents hauts responsables politiques, et avec l'aide notamment de Max Mosley, qui jouera de son influence pour leur permettre d'obtenir des rendez-vous. Et un rendez-vous a particulièrement attiré l'attention, c'est celui du 16 octobre 97 entre Tony Blair, alors Premier ministre, et un trio composé de Bernie Ecclestone, Max Mosley et David Ward, justement. Alors c'est sans doute au cours de cette entretien qu'aurait été, en tout cas, décidé ou finalisé, une enveloppe de près d'un million de livres qui aurait été versée au parti travailliste, en échange de quoi Tony Blair aurait usé de toute son influence pour permettre aux cigarettiers, à l'industrie du tabac, de rester en Formule 1 pour une dizaine d'années supplémentaires, ce qui a été chose faite, puisque après 97, il y a eu de nombreux sponsors cigarettiers. Ward n'a pas encore annoncé sa candidature, mais il a déjà pourtant des partisans et des détracteurs. Dans les critiques qu'on peut lire à son encontre, il y a plusieurs questionnements. Notamment, c'est pourquoi avoir tant fait pour sauver des vies avec la sécurité routière et ne pas avoir eu la même considération pour la santé dans ses liens avec l'industrie du tabac. Aussi, le poste de président de la FIA étant bénévole, Ward aura-t-il les moyens de subvenir à ses besoins, et si oui, qui le financera? Et enfin, évidemment, la question évidemment que tout le monde se pose, c'est quels sont ses liens avec Bernie Ecclestone et Max Mosley, qu'il connaît visiblement bien. C'est là-dessus que la plupart des critiques portent. Parce que bien sûr, il y a la question aussi de l'indépendance de l'institution FIA vis-à-vis de Bernie Ecclestone et de la FOM. Et donc, ça reste une question assez prégnante, quoi, dans le contexte actuel. Malgré tout, si beaucoup espèrent un scénario à la 1991, quand les Britanniques s'étaient ligués contre Jean-Marie Balestre pour effectuer un putsch et placer à la tête de la FIA Max Mosley, il semblerait quand même, malgré tout, qu'il pourrait y avoir une petite inconnue qui serait la présence d'un troisième candidat, parce qu'il se murmure du côté de la FIA que d'autres membres de l'exécutif auraient des velléités de se présenter face à Jean Todt. Alors juste voilà, ça c'était pour poser un peu qui était David Ward et quels sont ses liens avec la F1 et la FIA. Après moi je veux juste revenir un petit peu sur le processus d'élection, parce qu'on le sait pas forcément, mais le président de la FIA est donc élu par l'Assemblée Générale de la Fédération Internationale de l'automobile, qui comprend 232 associations membres venant de 137 pays, qui représentent à la fois les intérêts sportifs et les intérêts, de mobilité routière, les deux d'ailleurs. Et donc, dans un délai compris entre 42 et 21 jours avant l'élection, les candidats doivent dresser une liste de 16 personnes qui vont être un peu le cabinet à l'anglaise, quoi, de la Fédération Internationale de l'Automobile, le cabinet du président. Et qui vont occuper des postes clés, comme par exemple les présidents adjoints à la mobilité et le président adjoint au sport, et tout ce qui concerne aussi les vice-présidents, qui eux vont être à la tête de chaque conseil mondial, dont le conseil mondial du sport automobile. Et donc le vote aura lieu à Paris, au siège de la FIA, place de la Concorde, le 9 décembre, et sera donc à bulletin secret. Voilà.
Donc ça sera pas aussi simple que lors de la précédente élection.
Visiblement, voilà, c'est-à-dire que si effectivement derrière David Ward il y a plus que David Ward, parce qu'évidemment les protagonistes, les partisans de David Ward tendent à dire que c'est voilà, il le fait de sa propre initiative, c'est son choix.
Parce que voilà, parce que être un candidat, bon, il peut y en avoir, mais visiblement ça n'est pas un petit candidat, c'est quelqu'un qui peut faire tomber Jean Todt.
Ben voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui a sans doute derrière lui des. Alors après, ça restera à savoir. Hein. C'est pas parce qu'il a travaillé à une époque, mais malgré tout, il y a des liens qui se sont créés dans des conditions, malgré tout, qui doivent permettre de garder certaines.
Et on sait ce qu'il reproche à Jean Todt pour vouloir le virer finalement au bout d'un mandat.
Moi, ce que j'avais lu, c'est que David Ward, pardon de te couper, se présentait lui de sa propre initiative, mais surtout aussi dans l'absolu pour qu'il y ait quelqu'un face à Jean Todt, que Jean Todt ait une certaine concurrence sans forcément avoir quoi que ce soit contre Jean Todt, mais considérant que c'était plus sain, entre guillemets, c'est plus sain d'avoir un vrai duel, un vrai choix possible pour la présidence.
Exactement, mais c'est d'ailleurs ce qu'on peut lire sur Autosport qui est l'auteur du papier qui a inspiré cette question, parce que effectivement, Ward, s'il a envie de se présenter, effectivement, en lui-même, ce serait voilà pour créer le débat, pour qu'il y ait un véritable processus d'élection, quoi, qu'on soit pas face à un seul candidat. Après, c'est sûr que dit comme ça, Enfin, ça peut paraître une raison légitime de se présenter. Hein. C'est pas la première fois qu'une fédération sportive, notamment, fait face à un poids lourd, face à des petits candidats qui sont là juste pour exister finalement. Mm-hmm. Après, c'est sûr que voilà, la problématique, c'est la question des liens que Ward a, notamment avec Ecclestone, parce que à Enid Mosley. Une chose, mais Ecclestone, c'en est quand même une autre, et c'est surtout ça qui interroge après. Mais après, il pourrait y avoir un autre candidat. Alors là, par contre, sur le nom de ce candidat, c'est un peu plus difficile de l'obtenir visiblement, mais il y aurait d'autres velléités au niveau de la FIA elle-même. Alors qui, je sais pas, mais on pourrait peut-être avoir une élection à trois, quoi.
Réponse en décembre.
Réponse en décembre, exactement.
Très bien, messieurs, on va passer au podium de l'actu, car il y a eu quand même quelques actus, même si c'est quand même très calme, hein. Ça n'a pas attendu d'ailleurs la pause pour que ça soit calme, globalement, hein. Et même si c'est calme, hein, il n'y a pas eu d'actu Pirelli. On n'a pas eu à se forcer, rien. Non, il y a pas d'actu Pirelli.
On peut s'en féliciter.
C'est quand même...
Quoique, moi personnellement, dans mes actus, il y a une actu un petit peu Pirelli quand même.
Oui, mais voilà, il n'y a pas d'actu direct Pirelli. Ça fait quand même longtemps qu'on n'en avait pas eu.
Ouais. Ça manque.
C'est pas eux qui sont directement cités. Non. Faudrait qu'on fasse une fois une émission 100%
Pirelli. Non, c'est déjà fait.
Ça serait une idée.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Et on va commencer parce que c'est l'été, comme tous les ans. L'été, c'est le moment des rumeurs de transfert. Alors il y a cette clé des transferts, hein, on la connaît, c'est ce fameux deuxième baquet Red Bull.
Ah, moi je suis très content que Kimi Raikkonen ait enfin officialisé qu'il allait chez Red Bull. Quoi. On l'attendait début août, on nous l'avait dit, chapeau quoi.
Qui délire.
Donc pour ce deuxième baquet Red Bull, hein, on pense à Kimi Raikkonen, on pense comme d'habitude aux deux pilotes Toro Rosso, Ricciardo qui semble plus proche du baquet Red Bull que Jean-Éric Vergne. Et
oui, à ce propos, sur Jean-Éric Vergne, je lisais un très bon papier comme d'habitude d'Autosport, mm-hmm. où ils expliquaient qu'en fait c'est pas parce que Jean-Éric Vergne est, parce que le propos de Christian Horner, c'est de dire qu'il n'est pas encore prêt. Dans l'absolu, c'est pas une fermeture totale des portes.
Non.
Puisque si on regarde, effectivement, dans leur carrière, Ricciardo est plus avancé de quelques mois, mais bon, plus avancé, hein, un peu plus d'expérience. Mm-hmm. Et du coup, ça ferme pas du tout les portes de Jean-Éric Vergne, qui ne démérite pas, effectivement,
mais...
qui fait du relativement bon boulot.
Ouais, enfin...
Mais qui manque peut-être encore un peu de bouteille.
Oui, mais faut être logique. C'est-à-dire que si Ricciardo, par exemple, va dans le deuxième baquet Red Bull, il va pas y rester théoriquement pour un an.
Non, mais voilà, c'est ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est aussi dans l'absolu, enfin, Vergne n'allant pas chez Red Bull, il va quand même rester dans le giron Red Bull, puisqu'apparemment, le baquet Toro Rosso lui est quand même promis quand il arrive. Donc, il peut rester dans le coin. À mon avis, si mi-saison, par exemple, imaginons que Antonio Félix da Costa soit promu à la place de Ricciardo, que da Costa mette une tannée à Vergne, je pense que Vergne sautera en milieu de saison. Mais bon, encore là.
Ouais,
c'est quand même, ce serait quand même une première d'un pilote Toro Rosso qui, entre guillemets, n'est pas promu et se retrouve quand même toujours dans le giron Red Bull. D'habitude, quand ils considèrent qu'ils sont pas prêts ou quoi, ils sont les gars d'être venus, on a vu ce que vous pouviez faire.
À sa place, j'essaierai quand même de regarder un peu ailleurs.
Oui.
Juste comme ça.
Parce que, enfin.
Oui, quand même. Mais il a quand même encore une porte ouverte. Ici, a priori, il sera encore en F1 l'année prochaine.
Bon, la fenêtre de tir est mince quand même, hein.
Ouais.
Parce que, à mon avis, la fenêtre de tir, c'est la demi-saison qui arrive, là. On sait jamais. C'est pareil, ils disent Ricciardo a l'avantage. Bon, c'est pas fait, dans l'absolu.
Non, parce que il y a eu les autres rumeurs.
Non, mais voilà. Non, mais ça, déjà, il y a eu les autres rumeurs. Mais de toute façon, enfin, moi, je suis assez d'accord avec Shinji. J'ai lu le papier d'Autosport, qui est très intéressant à lire. Mais enfin, la fenêtre de tir de Vergne est quand même très très étroite. Il va falloir être très très bon très rapidement.
Si là, ça passe pas pour Red Bull, faut tout de suite qu'il regarde ailleurs. Hein.
Oui, mais c'est ça le problème. C'est un pilote qui a pas de financement. C'est un pilote qui a, enfin, moi je veux dire, je veux bien entendre qu'il reste chez Toro Rosso après et qu'il soit prêt à le mettre plus tard chez Red Bull. Mais enfin, Red Bull se contentera pas de mettre Ricciardo avec un Vergne. Quoi. Enfin, je veux dire, ça me paraît impossible. Quoi. De ce côté-là, enfin, si Ricciardo est effectivement même pas, sans parler d'être performant, mais en tout cas. Et, comment dire, bon, je pense que Vergne pourra s'asseoir sur ses espoirs de rouler avec Red Bull, quoi.
Et donc, les autres rumeurs, celles qui sont apparues ce week-end, hein, donc il y a le fameux cas Alonso. Hein. Alors, on ne va pas parler de la réaction de son patron, parce qu'on va en parler juste après. C'est l'actu d'après. C'est la réaction. Là, on va parler de l'action. Et, parce qu'après tout, plus on est de fous, plus on rit, et bah, eh, quitte à voir Alonso chez Red Bull, pourquoi pas voir Kimi Raikkonen revenir chez Ferrari, hein.
Oui.
Ils ont vraiment quelque chose à foutre, les journalistes, quand même, en ce moment.
C'est vrai que c'est assez, assez improbable, ça, comme info. Parce que bon, Raikkonen chez Ferrari, ils sont quand même pas quittés en très bons termes, même si le passé, c'est le passé, et que bon. Surtout que, bon, Raikkonen, je pense que s'il bouge, c'est pour avoir mieux que ce qu'il a chez Lotus,
oui,
en termes de performance de la voiture. Sûrement pas, et chez Ferrari, où Alonso commence quand même sérieusement à ronger son frein, à fumer sous son casque et à se plaindre ouvertement. Voire même pour des trucs complètement imaginaires, il croit être tout seul sur la piste, ouais. Avec gros gens.
Oui.
Mais, voilà, ça c'est typiquement le genre de choses, on sent que le type est frustré, quoi. C'est, voilà, moi, sur le coup, j'ai fait ça, c'est l'Alonso que j'aime pas, c'est l'Alonso pleureuse. Enfin, c'est la réaction à chaud. Tu vois le truc, tu, voilà. Et après, tu sens bien qu'il y a, voilà, s'il se plaint, c'est pas tellement sur Grosjean, c'est, voilà, il voulait passer, parce que, au début, avant même le départ de la course, avant même d'arriver sur le circuit, il avait dit, il faut qu'on reprenne des points à Vettel. Et là, dès le départ, en se retrouvant coincé derrière Grosjean, bah, il se rend bien compte que ça va être un peu plus compliqué que ce qu'il aurait bien voulu faire. Et ben voilà, c'est la frustration du champion, et tant que l'ambiance ne va pas être particulièrement joyeuse chez Ferrari, quoi.
Après, de là à ce qu'il parte chez Red Bull, déjà, il a un contrat.
Non, mais moi, je
et
pense
puis,
que
je pense pas que Ferrari ait envie de le lâcher. Ça va pas être comme Kimi Raikkonen, hein. Je pense que
non,
là, Fernando Alonso, ils veulent vraiment le garder, hein.
Oui, puis je pense que on peut donner le crédit qu'on veut à la rumeur Red Bull. En plus, je pense que Horner, dans sa déclaration, joue un peu sur pour mettre
totalement
de l'huile sur le feu.
Oui.
Mais je pense que là de ça, c'est surtout aussi un moyen de mettre un peu de pression peut-être sur Ferrari en disant bah voilà, il y a des options, quoi. Même si on se doute bien que enfin Alonso chez Red Bull, c'est relativement improbable. Mais il y a peut-être aussi des jeux entre guillemets d'influence. Voilà, je pense qu'Alonso est de créer l'électrochoc comme il peut, quoi.
Ouais, mais c'est ça, parce que, comme tu le dis, la réaction contre Grosjean, démesurée, par rapport à ce qui s'est passé en piste, prouve bien qu'on est face à quelqu'un qui est pas serein, qui a des raisons de pas l'être. Le dernier titre d'Alonso, c'est 2006. On est en 2013. Il le gagnera sans doute pas cette année non plus. Enfin, c'est quelqu'un qui est double champion du monde, mais depuis combien de temps n'a-t-il pas été champion du monde? Et il est arrivé dans une voiture, enfin dans une écurie en tout cas, pour laquelle se battre pour le championnat du monde chaque année, c'est un leitmotiv. On peut pas se permettre de ne pas le faire. Et là, il se rend bien compte que ça fait combien 2010, 2011, ça va faire 4 saisons durant lesquelles il aura pas eu jusqu'au bout, en tout cas de manière constante, l'arme pour se battre pour les victoires et donc pour se battre pour le titre. On est face à un pilote qui partira
avec l'immense frustration en plus la plupart du temps. De ne jamais être très
oui,
loin.
Oui, non, mais c'est même pas,
genre, ça fait 4 ans qu'il est largué, ça fait plusieurs fois qu'il est pas loin de l'avoir ce titre, mais il lui manque 2-3 points.
C'est ce qui rend la chose encore plus frustrante pour lui, et ce qui donne, quoi qu'on puisse dire, du crédit à la rumeur, parce que là, il y a derrière cette rumeur, la frustration, de beaucoup dans le monde de la F1 de se dire que à chaque fois il n'y aura pas manqué grand chose pour Alonso pour gagner le titre avec la Ferrari moi je suis pratiquement certain je vous rejoins que qu'il partira pas de chez Ferrari en tout cas pas maintenant
non
pas maintenant parce que malgré tout moi je pense qu'il faut donner il y a le bénéfice du doute pour la saison prochaine. Il modifiera pas quand même pas mal de choses peut-être dans un domaine où Ferrari sera peut-être plus à l'aise, mais c'est pas incongru non plus de se dire qu'un champion comme Alonso, qui a toujours recherché malgré tout les écuries de pointe, alors à part évidemment son deuxième passage chez Renault, mais qui était justifié par d'autres choses, mais finalement, enfin, qui était une période transitoire avant justement de revenir dans une grande écurie, ne réfléchissent pas à l'opportunité Red Bull, d'autant qu'on on va en parler juste après, mais le cas Raikkonen n'est pas fait,
oui.
Ça va visiblement pas aussi vite que ça aurait pu se faire. Ricciardo, moi je suis toujours sceptique. Je veux dire, effectivement, il a une saison de plus que Vergne, mais j'ai pas l'impression qu'il ait une saison de plus que Vergne sur la piste, quoi, en général. Voilà. Donc la rumeur Alonso me paraît tout aussi difficile à croire, mais en même temps, c'est pas une rumeur qui vient de nulle part. C'est l'écurie qui va être sans doute 4 fois championne du monde, qui aura un baquet de libre. Enfin, ça se produit pas tous les jours. C'est un séisme dans le monde de la Formule 1. Et le pilote qui aura le privilège de s'asseoir dans le baquet laissé vide par Weber aura entre les mains une voiture, certainement. Alors peut-être, mais ça aura certainement une voiture pour se battre pour la victoire. Quand t'es Alonso et que la victoire, même si tu y goûtes chaque saison, se raréfie plus tu avances dans l'année. Il y a sans doute quelque chose qui doit faire tilt, mais après, bon, je vois pas vraiment. J'y crois pas un seul instant.
C'est ça aussi dans la frustration d'Alonso, c'est que par rapport à l'an dernier, où dès le départ, il savait qu'il n'avait pas la voiture. C'est que ici, en début de saison, la Ferrari, elle était là.
Ouais.
Ils ont commis des erreurs en piste qu'on les a pas vus faire l'an dernier. Ça a quand même étonné plus d'un, alors que l'an dernier, ils ont saisi toutes les opportunités, marqué des points, que ce soit l'équipe ou Alonso en tant que pilote. Et là, en début de saison, que ce soit en Malaisie ou à Bahreïn, ils font des bêtises quasiment de débutants. Ils leur coûtent des points. Et ici, au fur et à mesure que la saison avance, on se rend compte que la Ferrari, en termes de développement, arrive tout simplement à pas à suivre le rythme. Et c'est ça aussi, je pense, qui frustre particulièrement Alonso, c'est de se dire que même quand il arrive au premier Grand Prix, avec une voiture qui, a priori, peut lui permettre de se battre face aux Red Bull, aux écuries de pointe, pour le titre, ben, c'est pas pour ça qu'il va pouvoir le faire sur toute l'année. Alors que, bon, Ferrari est quand même une grosse machine. Qui a les moyens, les ressources pour pouvoir justement suivre le rythme de développement de Red Bull. C'est peut-être même la seule qui a véritablement, avec McLaren et encore aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas, de suivre ce rythme de développement. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus du tout le cas, quoi. Sur la piste, les résultats régressent.
Ouais, non, mais c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est ça. T'as bien raison de dire ça parce que finalement, quand tu regardes le développement de Red Bull, qu'est-ce qui échoue? Pas grand-chose, mine de rien. Et non. C'est pas une science exacte. Enfin, on le voit bien avec à peu près toutes les écuries sauf Red Bull, finalement. Mercedes, les améliorations n'ont pas toujours porté leurs fruits. Lotus, les améliorations n'ont pas toujours porté leurs fruits quand ils peuvent en faire. McLaren, voilà. Ferrari, les améliorations sont quand même pas géniales, quoi, sur cette saison-là. L'année dernière, elles étaient un peu meilleures, effectivement. La voiture a progressé au fil de la saison. Mais cette saison, il y a une stagnation. Et quand tu stagnes en F1, tu régresses. Hein. Finalement, la seule écurie qui parvient toujours à niveau constant d'évolution à faire quelque chose, c'est quand même Red Bull. Parce que moi, j'ai rarement... alors, ils testent aussi beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais j'ai rarement entendu dire que Red Bull avait échoué dans une mise à jour, dans des nouveautés. Quoi. Et il y a aussi ça, parce que... Et mine de rien, c'est une équipe qui est 3 fois championne du monde, qui arrive malgré tout, parce qu'il a fallu se battre sur toutes les saisons, sauf 2011, bien sûr, mais il a fallu se battre sur 2010 et 2012 pour aller jusqu'au bout de la saison, pour produire une voiture qui sera, et des nouveautés qui seront efficaces pour avoir une voiture qui sera capable de jouer la gagne jusqu'au bout pour assurer le titre. Ce que Ferrari visiblement n'arrive pas à faire, et ça aussi c'est quelque chose qui doit pencher dans la balance, parce que l'année prochaine on sera face à des nouveautés, on sera sans doute face à des problèmes de fiabilité, des problèmes sur lesquels on pourra gagner beaucoup. Est-ce que à ce moment-là il serait pas avantageux d'être dans une équipe qui a l'habitude de travailler sur des nouveautés qui vont fonctionner? C'est vrai que tout ça mis dans la balance, ça donne un certain crédit malgré tout, mais on peut dire pareil de Raikkonen sur ce plan-là, hein. Mmh. Plan des évolutions.
Moi, pour moi, la rumeur Alonso, elle est plus révélatrice dans certains malaises chez Ferrari qu'une véritable volonté de sa part de partir.
C'est une rumeur
elle est symptomatique de
c'est
ça.
C'est une rumeur en plus qui est très bien utilisée par Red Bull, hein, tu le disais tout à l'heure. Horner met de l'huile sur le feu, Marco évidemment. Enfin voilà, c'est des gens qui peuvent se servir de ça pour parce qu'ils voient bien que ça a déclenché quelque chose chez Ferrari, même si c'est pas exactement cet épisode-là qui déclenche quelque chose chez Ferrari, il s'est passé quelque chose. On a Alonso qui a dit quelque chose, on a Di Montezemolo qui a réagi. Il y a pas c'est pas un climat très serein à Scuderia. Même si c'est pas non plus un, c'est pas voilà, ils se prennent pas le bec de manière virulente. C'est des échanges de pilotes stars face à directeurs de la firme. Mais voilà, il y a un climat que Red Bull ne se prive pas d'entretenir parce que voilà, ils surfent aussi sur cette, ils surfent aussi sur ça. Et il y a beaucoup de ça dedans parce que effectivement, on imagine bien que de toute façon, s'il devait y avoir quelque chose, ça se réglerait pas dans un motorhome à Budapest, quoi. Donc voilà.
Raikkonen, il est toujours le pilote favori pour aller dans le deuxième paquet Red Bull? Ou c'est
sincèrement, je pense que oui.
Moins évident qu'il y a encore 2-3 semaines?
Moins évident qu'il y a 2-3 semaines, sans doute, mais ça reste pour moi quand même encore le favori. Je pense que c'est plus difficile. En même temps, je crois que les ou le manager, je sais pas si c'était les deux frères, je sais pas si
les Robertson, tous les
deux, si gèrent encore tous les deux la carrière de Raikkonen.
Je crois,
en tout cas, il y en a encore au moins un. Mm-hmm. Ils sont pas réputés pour être des gens faciles en affaires. Je pense que Raikkonen, il a quand même certains desiderata, notamment au niveau financier, même si je pense que j'ai lu dans une interview sur le site officiel de la Formule 1 que c'était pas non plus le point crucial, mais bon. Ça reste quand même un des points clés quand même. Donc Raikkonen favori, oui, clairement. Enfin, en plus un duo Raikkonen Vettel, ça aurait de la gueule. Même pour Red Bull, quand on voit.
Oui.
Je crois qu'à Budapest, nous, je pense que là, enfin, j'ai pas vu toute la retransmission, donc j'ai pas tout vu, mais il me semble que Vettel s'est encore fait siffler. Donc à ce niveau-là, est-ce que Vettel battant un champion du monde, Raikkonen, qui est quand même réputé. Bon, certains fans ne sont pas ravis s'il se fait battre par Vettel à la régulière, mais ça pourrait lui redonner un peu de crédit, même si, parce que là, ce qui se passe, c'est clairement qu'il y a une certaine lassitude qui se passe. C'est la même chose que ce qu'on a eu avec Schumacher à l'époque. Ici, Vettel, oui. Beaucoup de gens, et à raison, le voient déjà voler vers un quatrième titre. Ce sera peut-être pas aussi simple que ce qu'on veut bien croire. Ça se revient, mais à mon avis, on va en reparler. Lotus avec la chaleur, voilà. Donc, est-ce que pour Red Bull, ce serait aussi un bon moyen de redorer le blason Vettel et de remettre en avant de remettre un peu un coup de polish sur le produit marketing Vettel, qui j'ai l'impression auprès des fans et des amateurs de Formule 1, il y a un peu parce que voilà, lassitude, on n'aime pas les gens qui gagnent trop. Enfin, c'est bien connu. C'est, je pense que c'est un peu pareil dans tous les sports, même si ici avec Vettel, ça a l'air d'être récurrent. Un peu sorti de nulle part, parce qu'avant le Canada, pas l'impression qu'il y avait, je sais pas ce qui s'est passé entre le Monaco et le Canada, mais il y a un truc, enfin Donc voilà, je pense que pour Red Bull, ce serait clairement le pilote à apprendre, parce que bon, si Vettel va battre un Ricciardo, il y a aucun palage, quoi.
Ouais, puis.
Pour faire un jour à Ricciardo, qui est sûrement un bon pilote, mais oui. Il n'a encore rien montré a priori d'exceptionnel aujourd'hui, qui a sa place en F1, mais de là à dire qu'il sera champion du monde un jour, on va pas se précipiter. Donc voilà, c'est et puis pour l'image, forcément, Red Bull Raikkonen, c'est le pilote type qui a l'image Red Bull, l'image un peu rock'n'roll, image que finalement ils perdent un peu. On a l'impression que en gagnant, ils deviennent un peu formatés plus F1 finalement. Et ramener Raikkonen serait peut-être une façon de redonner un peu nouveau pour les questions d'image. Qu'ils avaient à leur début.
Sinon, un autre niveau, parce que il faut pas oublier qu'il y a 22 pilotes, hein. Il y a Sutil,
non, Shilton n'est pas un pilote, Xingji. Un peu de sérieux, quand même.
Il y a que 21
voilà,
pilotes.
Merci.
Est-ce que Vandergaard est considéré comme un
pilote? Oui, ça va.
Oui, oui, d'accord. Bon, il a un surnom ridicule, mais bon.
C'est le jardinier, c'est ça?
Oui, voilà. C'est ça. Donc, Sutil se dit incertain pour 2014. Il dit, oui, il y a bien une équipe chez qui j'aimerais aller, mais je ne le dirai pas. Oui, en gros, parce qu'ils t'embaucheront jamais, surtout ça.
Une équipe.
Et Gutiérrez, lui aussi, est serein pour 2014.
Ah oui?
Lui, par contre, je le serais moins, tu vois. Sutil, il a pas de compte. Je pense qu'il a un contrat d'un an parce que, c'était prévu. A priori, je pense que, surtout si Di Resta venait éventuellement aller voir ailleurs, je pense que Force India garderait ce deal. Question de stabilité, c'est quand même toujours pas mal. Maintenant, de qui parlait-on d'autre?
Ah, tu l'avais déjà oublié.
Tu sais, un pilote de
F1. Oui, mais non, mais Gutiérrez, c'est plus délicat parce qu'avec l'arrivée des Russes, un financement qui va être quand même plus important que ce que Carlos Slim apporte, tant que je pense que Carlos Slim finance déjà moins que ce qu'il ne le faisait que Pérez.
À moins que de toute façon, ça reste Sirotkin, hein.
Ouais, mais enfin, dans ce cas-là, même en imaginant que Hülkenberg parte, possible, il est cité un peu là où il y a des volants compétitifs, sauf chez Red Bull. Mais à garder Gutiérrez sous le prétexte de la stabilité, nous reconstance dans ce cas-là.
Oui.
Il aura une saison dans les jambes, il n'a pas encore prouvé grand-chose, il peut éventuellement avoir une illumination, mais j'en suis quand même pas convaincu, surtout que la voiture lui permettrait pas en même temps.
Oui.
C'est ça aussi qui est compliqué,
c'est
un peu comme Perez chez McLaren, il fait pas d'étincelles,
oh
pas celle qu'on voudrait.
Oui. Voilà.
Mais la voiture lui permet pas non plus, donc c'est un peu délicat de véritablement juger dans ces cas, mais je pense pas que Gutiérrez soit... Lui, pour le coup, je serais très très étonné si un jour il devenait champion du monde. Déjà, je serais très
déjà
étonné
qu'il reste en F1. Non,
déjà, je serais très étonné qu'on lui donne le matériel pour qu'il puisse devenir champion du monde. Donc,
déjà, tu serais peut-être étonné qu'il reste en F1.
Oui, bah oui, c'est ça.
Ça va peut-être être compliqué.
Le voir serein, c'est quand même... Bon, après, c'est des déclarations qui valent ce qu'elles valent, mais à sa place, je le serais pas. Mais...
Et donc, deuxième actus, c'est beaucoup en relation avec ce qu'on a déjà parlé, hein, c'est Luca Di Montezemolo, qu'on n'avait pas entendu depuis un certain temps, j'ai envie de dire, hein, c'est vrai, hein, il s'était fait assez discret. Et là, Luca, il est de retour, et comme on dit, il est pas content.
Ouais, non, mais bon, Di Montezemolo, moi, je veux dire, je vais mettre de côté les déclarations je vais mettre les déclarations où il tempère un peu Alonso. C'est des déclarations de patron d'une entreprise envers quelqu'un qui, malgré tout, est un salarié et qui, on sait que Ferrari est très attaché à ce qu'on respecte la marque.
La société.
La marque, ouais. Et les voitures Ferrari.
Ah, les pilotes Ferrari se donnent tout.
Oui, mais quand même, moi, je trouve que... Sauf que de nouveau, c'est peut-être on après le départ de Schumacher, Brown, Todd, etc., on a même avec Domenicali à la tête de l'équipe, une italienisation. Enfin, les Italiens reviennent au pouvoir véritablement.
Ah, mais c'était le grand cheval de bataille.
Montezemolo qui sort un peu de ses gonds, qui remet un peu l'église au milieu du village, c'est quelque chose qui serait jamais arrivé à l'époque de Schumacher, parce que d'abord Schumacher ne serait jamais plaint publiquement.
Ouais, voilà.
Là, il aurait sans doute comme tapé du poing sur la table s'il avait fallu, bah, il l'aurait fait en interne, donc on n'aurait pas dessus tout ça. Et finalement, on retrouve un peu, on a l'impression de retrouver l'ancienne, véritablement Scuderia ici, qui... un peu sanguin, quoi. Il est italien. Donc quand même, de nouveau, il y a un peu... Peut-être à creuser en se disant que finalement, les soucis même sportifs et que rencontre la Scuderia sont peut-être pas totalement anodins non plus par rapport à la gestion de l'écurie. Même si je crois que Domenicali a de nouveau reçu le soutien du grand patron dessus, mais...
Non mais c'est révélateur de ce qui se passe. Effectivement, moi quand je dis je le mets de côté, c'était par rapport à l'ensemble des déclarations de Di Montezemolo qui est...
Oui, bon, voilà. C'est plus le reste là, qui est.
Pour le coup, à la limite, c'est logique. Il y a quelque chose de logique dans tout ça. Ça révèle l'état d'esprit. Ça révèle qu'ils sont pas sereins parce que de toute façon, ils sentent bien que, encore une fois, la chance de jouer le titre leur glisse entre les doigts. Mais moi, c'est plutôt sur le reste. Hein, c'est toujours pareil. C'est revenir à la marotte Mercedes. L'avantage gagné par Mercedes a été plus ou moins rattrapé, ce qui leur a été reproché a été accordé aux autres équipes, en plus aux autres équipes dans un contexte quand même un peu plus sûr, dans un contexte un peu plus un peu plus clair, donc voilà, il y avait sans doute plus de clarté aussi de la part de tout le monde concernant les essais des jeunes pilotes entre guillemets. Bon, voilà, à un moment, faut quand même arrêter de rester là-dessus, parce que c'est toujours pareil, il continue de nous dire, voilà, que la F1, que Mercedes n'a pas été sanctionnée à la juste, que Mercedes n'a pas eu de sanctions justes. Bon, ça va, ça va 2 minutes. Mercedes a remporté des courses, c'était pas des courses, on n'a pas eu l'impression non plus qu'il y avait des gains énormes, tout le monde a pu après récupérer l'avantage pris, enfin voilà, ça là-dessus faut arrêter. Et puis il y a aussi toujours cette façon de dire oui, alors nous on construit des voitures, on construit pas des avions, trop d'aéro. Bah oui, mais mon petit père, à un moment la Formule 1, c'est la Formule 1, c'est le pinacle du sport auto. Dire encore une fois, moi j'ai rien contre cette façon de voir les choses, mais enfin à ce moment-là faut pas s'engager en F1 si on veut pas que l'aéro prenne de l'importance. On sait bien qu'aujourd'hui avec les réglementations actuelles, c'est l'aéro qui sur lequel ça joue. Alors effectivement, quand on a une soufflerie qui marche pas, eh ben c'est sûr qu'on peut s'en plaindre de l'aéro, parce que voilà. Mais je crois qu'à un moment, il faut s'en plaindre qu'à soi-même. C'est-à-dire, faut pas attendre le retour des moteurs et bien. Je pense qu'il se fait des petites idées, dit Montezemolo, parce qu'il y aura sans doute pas une prééminence aussi grande qu'il y a pu avoir par le passé des moteurs. Enfin bon, voilà. Moi, c'est toujours cette façon de présenter les choses. Les affaires en coulisses, on construit des voitures, pas des avions. Bon, moi, franchement, il m'agace au bout du compte, quoi, parce que il dit des choses qui pourraient être très intéressantes, mais il le dit de manière tellement véhémente que, enfin, c'est inaudible, quoi. Il attaque, il est tout le temps dans l'attaque. Alors effectivement, il est pas serein, il sait très bien qu'il aura pas le titre en fin de saison, mine de rien, parce que pour d'autres écuries, ça serait pas à remarquer, en tout cas pas plus que d'autres. Mais c'est Ferrari, là, on parle de Ferrari, quoi, le symbole de la F1. Voilà, moi c'est toujours ça qui me dérange. Après, encore une fois, on peut discuter de ce qu'il dit, on peut trouver qu'il y a matière à débat dans ce qu'il dit, mais il le dit d'une manière tellement hautaine, tellement arrogante, quoi, d'une certaine manière, que enfin, moi j'ai même pas envie de, à chaque fois que je lis un truc de Di Montezemolo en ce moment, je m'arrache les cheveux, quoi. C'est bon, il m'en reste de moins en moins, faudrait peut-être que j'arrête cette pratique, mais voilà, quoi. Donc il m'agace très fortement en ce moment.
Mais sur l'aéro, la bonne nouvelle, c'est que l'arrivée de James Allison, quand même, oui, hein, des chevilles ouvrières du succès de Lotus. Comme d'habitude, ils sont pas tout seuls, c'est des équipes, hein. Aujourd'hui, même chez Red Bull, on parle souvent d'Adrian Newey, mais c'est plus, effectivement, il a une grosse part, mais c'est aussi un porte-étendard par rapport à une équipe d'ingénieurs qui sont autour de lui, qui fournissent le travail. C'est pas que Adrian Newey dans son petit bureau avec ses crayons qui dessine la voiture. Donc Allison ne va pas forcément faire de miracle, mais il est quand même à la base, à l'origine des performances de Lotus, même si nouveau, il avait des gens autour de lui. Donc son arrivée chez Ferrari pour renforcer un domaine dans lequel ils sont pas les meilleurs, c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, c'est pas, si leur soufflerie est toujours mal réglée, je pense pas que ce soit James Allison qui va leur dire, les mecs, chez Lotus, on avait tel ou tel résultat. À moins qu'ils recréent une maquette de la Lotus, qu'ils la mettent dans la soufflerie, qu'ils fassent, non, ça, les mecs, c'est pas possible. Bon. Et sur Mercedes, on a quand même en droit de se dire qu'on a quand même maintenant une petite idée des pneus qui sont testés à Barcelone. Parce que quand tu vois le niveau de performance qu'ils ont eu au Nürburgring en course, la vitesse, oui, à laquelle Hamilton et Rosberg se sont retrouvés mais complètement largués, et il les voit même en Hongrie de nouveau, surtout Hamilton, mais même Rosberg, malgré sa touchette et le fait qu'il est forcément rétrogradé dans le premier tour, ils ont quand même tous les deux tenu leur rang. Dans des
chaleurs caniculaires.
J'aurais fait passer le Nürburgring pour le pôle Nord, quasiment. Enfin, j'exagère, mais c'est quand même nettement plus chaud en Hongrie que ce qu'il faisait en Allemagne. Donc, je comprends que Montezemolo, nouveau, en rajoute une couche. Enfin, c'est peut-être une couche de trop, mais de nouveau, on est en droit de se faire la réflexion. Ah, on savait pas les pneus qu'ils ont testés, on a peut-être une petite idée, là, maintenant. Parce qu'effectivement, enfin, deux semaines avant, ils étaient, ils étaient nulle part, là, ils y reviennent un peu. Et bon, de nouveau, les pneus, maintenant, tout le monde les a essayés, donc ils vont avoir le temps de revenir aussi. C'est pas pour ça que Mercedes va gagner les 9 suivantes, n'en déplaise à Lewis Hamilton. Voilà. Sans forcément remettre de l'huile de nouveau sur le feu, on est quand même en droit de se dire, tiens, voilà. Moi, je me suis fait la réflexion sans forcément relancer un grand débat en disant, ouais, c'est normal, c'est dégueulasse, ils ont triché, blabla. Voilà. Je me suis dit, ah. Ah non, peut-être sur les pneus qu'ils ont testés, on a peut-être un petit indice, là. Mais voilà, après, si le changement de pneumatique s'imposait dans certains points par rapport à des questions de sécurité, donc...
Tu te marreras moins si Lewis gagne les 9 prochaines courses.
Je pense qu'ils vont... Encore, ça peut changer, parce que je pense que... Voilà, j'ai quand même l'impression que Mercedes, ils font un peu des up and down, donc... voir si ça va se confirmer. Ouais. En tout cas, sur la Hongrie, il y avait quand même de quoi... mais enfin pas de quoi lancer des grands débats et refaire le monde, mais voilà.
Oui, non mais après c'est sûr, mais faut pas être dupe, mais moi c'est toujours la façon qu'il a de le présenter, quoi, enfin l'impression que là c'était une triche organisée, que
ouais, il passe plus de temps à se plaindre qu'à essayer de réagir, en fait.
Mais c'est ça, non mais en plus s'il avait des arguments, et puis de toute façon ils ont été développés, les arguments, devant le tribunal de la FIA, donc je veux dire, à un moment, voilà, c'est un moment, faut lâcher l'affaire. Je veux dire, on peut toujours effectivement constater que Mercedes était particulièrement performante, même si au regard du déroulement de la course, il y a aussi des circonstances qui ont fait que ça s'est passé de cette manière. Voilà, dire, à un moment, faut quand même arrêter un peu de pointer du doigt ce, ces, ces choses-là, enfin, je veux dire, beaucoup de choses ont été faites pour qu'on essaie de rétablir le potentiel déséquilibre qui a été créé. On sait pourquoi on était arrivé dans une telle situation, on en a parlé maintes et maintes fois. Je veux dire, à un moment, il faut prendre sa responsabilité, il faut pas rejeter sur les autres des turpitudes qu'on n'a pas su s'éviter à soi-même, quoi, parce que Ferrari est aussi un petit peu responsable de tout ce qui s'est passé avant. Malgré tout ce qui a été dit, quoi. Donc bon, Di Montezemolo, effectivement, c'est le patron de Ferrari. C'est normal qu'il agisse. Enfin, c'est normal. Effectivement, qu'il soit aussi partisan, c'est logique. Mais que ses déclarations soient aussi véhémentes, je pense qu'il pourrait s'en passer, quoi. Mais bon, enfin oui, voilà. Moi, ça après, c'est très.
Parce qu'au-delà de Mercedes, l'objectif principal de Ferrari, c'est de battre Red Bull. Comme Ferrari n'a pas fait les tests de Barcelone comme Mercedes a fait, qui finalement Red Bull est dans la même situation que Ferrari par rapport aux pneus, et Red Bull termine devant. Donc l'objectif de Ferrari, c'est de battre Red Bull au-delà de Mercedes. Et ça, il n'y arrive pas.
Actu suivante, l'été, on parle aussi calendrier, oui. Et on a parlé quand même ces derniers jours de pas mal de grands prix, hein. Donc on sait pas encore combien de grands prix il y aura, hein. Ça
28.
Commence à se former. On va commencer d'abord par la prolongation de la Hongrie jusqu'en 2020, ça va faire plaisir à Dino.
Pas 2022 ?
Peut-être même 2022, c'est un très très
2021,
long.
2021, je crois.
Ouais, je pense que le dernier Grand Prix, c'est sa dernier Grand Prix en 2021, donc du coup tu peux...
Ça, c'est un Grand Prix qui n'a pas de problème de renouvellement. Ça, c'est formidable. Non. C'est formidable. Moi, il est bien. Hein.
Mais vous êtes content?
Moi, franchement, oui.
Honnêtement, c'est pas le Grand Prix qui me... C'est-à-dire que... Moi, le circuit en lui-même doit être super sympa à piloter, mais en tant que spectateur, c'est pas si que...
Ah, c'est drôle, parce que j'aurais dit le contraire, en fait. C'est que visiblement, pour les pilotes, c'est pas spécialement le Grand Prix le plus intéressant, mais qu'au contraire, ça donne des belles courses.
Mais, oui, c'est des courses sympas.
Je pense que c'est un circuit qui est sympa en qualif pour les pilotes, et qu'il est beaucoup moins en course parce que tu peux pas dépasser, quoi. Voilà.
Oui.
Donc je pense qu'en qualif sur un tour, quand t'es tout seul, tu peux vraiment faire ton tour. Je pense que ça doit être un circuit relativement quand même sympa. Mais quand en course, quand tu dépasses, quand tu veux dépasser, enfin, ou t'y arrives pas parce que c'est pas évident dans certains enchaînements, surtout le secteur 2, où quand t'essayes, la piste est pas forcément très large, donc il y a risque de touchette, comme on l'a aussi vu le week-end dernier. Donc je pense que voilà, en course, c'est pas forcément le circuit le plus sympa de la saison. Après, c'est un circuit sur le vieux continent, donc c'est toujours quand même sympa, plutôt que d'aller dans des destinations complètement... Et on va en parler.
Oui, justement, parmi les circuits qui sont au calendrier encore actuellement, l'un donc qui ne reviendra pas l'an prochain, mais qui n'est pas supprimé, il sera décalé d'un an pour revenir donc en 2015, en début de saison.
Et il y a de plus en plus de grands prix, de pays qui frappent à la porte de tonton Bernie en disant « Bernie, on veut un grand prix ». Alors, on évoque déjà éventuellement pour l'année prochaine un calendrier de 22 grands prix. Les équipes sont pas trop d'accord, donc on va sûrement essayer de réduire à 20.
Théoriquement, pour l'instant, on est plus ou moins à 21.
Oui, mais même si tu fais 20...
Puisqu'on était à 22 et que l'un ne sera pas.
Tu peux pas l'étendre à volonté, quoi. Donc, il faut forcément faire de la place et le principe d'alternance entre en jeu, quoi.
Voilà, si tu veux, cette année, on était à 19. Il y en avait deux dont on savait qu'ils rentreraient. Il y en a un troisième, on va en parler, qui rentre. Donc, ça fait 22. Et l'un n'est pas là. Donc, pour l'instant, théoriquement, on est sur du 21.
Ah oui, en comptant la Corée, donc.
Oui, oui, voilà.
Oui, ou même la Russie.
Pour l'instant, rien n'a été officialisé.
Même la Russie, qui n'est pas encore, a priori, le problème se règle.
Alors, justement, on peut parler de la Russie. Ouais, normalement, il y avait une date butoir, mais
je crois que la Russie, ils ont très bien compris le fonctionnement de la Formule 1.
Mais par contre, est-ce qu'ils ont prévu de faire le Grand Prix à un moment où Vladimir Poutine ne devra pas prendre l'avion?
Bah écoute, normalement, c'est prévu pour octobre-novembre.
Parce que je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en DTM ce week-end. Ils étaient du côté de Moscou, et en DTM, les qualifications se passent en 4 parties. Et la dernière qualification n'a tout simplement pas pu se dérouler parce que l'espace aérien était fermé, parce que Vladimir Poutine allait passer, que donc l'hélicoptère du circuit ne pouvait pas décoller, et hélicoptère qui ne décolle pas, voiture qui ne roule pas. Donc la dernière partie de qualification du DTM n'a pas pu avoir lieu parce que Vladimir passait au-dessus du...
C'est magique.
C'est magnifique. C'est pour ça que je me demande si le Grand Prix sera prévu à un moment donné où Vladimir n'a pas de plan.
Poutine Land.
Donc oui, il y a une question de date, ils ont pas donné les papiers, mais bon, apparemment il y a bisbis sur qui va promouvoir le Grand Prix, qui va payer, enfin des trucs.
Mais moi la Russie pas là, ça me, enfin personnellement moi, le rendez-vous russe, je m'en fous complètement, ça ne voilà, c'est pas déjà le tracé me sens pas, enfin nouveau un espèce de machin pseudo-urbain comme on a en Corée ou genre de truc. Moi c'est typiquement le genre de circuit qui moi me fait pas rêver. Enfin voilà, moi, j'aime bien les vieux circuits à l'ancienne, Silverstone, Suzuka, Spa, Interlagos, voilà. Donc ces circuits qui sont ni vraiment urbains ni vraiment de circuits comme on en fait à l'ancienne, ça me la Russie, enfin c'est un autre débat.
Moi ce qui m'avait fait marrer, c'est il y avait eu des articles qui s'étonnaient, attention, qui s'étonnaient que les travaux allaient forcément avoir un coup d'arrêt début 2014. Ils s'étonnaient de ça.
Oui.
Mais les gars, vous êtes au courant quand même depuis longtemps qu'il y a un truc qui se passe début 2014 à Sochi.
Ah oui, ils répandent de la neige artificielle, c'est pour ça qu'ils sont... Un jour, on ira faire les Jeux Olympiques d'hiver au Qatar, vous allez voir.
Mais est-ce qu'ils auront le droit de faire du biathlon sur le territoire russe, hein, si jamais Poutine y est? C'est la question que je me pose.
C'est une bonne question.
Non, mais...
Mais ils le feront, sauf que lui, il n'aura pas des petites cibles, il aura des gros ours gigantesques à abattre pour sa promo personnelle.
Il va nager dans un lac gelé, je sens. Ça sera le point d'orgue de la cérémonie d'ouverture. Je vous révèle quelque chose.
Non mais attends, c'est Vladimir Poutine. Donc il va descendre en hélicoptère, sans parachute, plonger dans le lac, qui sera gelé.
C'est pas Danny Boyle qui réalise, mais c'est la même saveur.
Ensuite, il sort du lac, il va abattre à coups de Kalachnikov 6 ours.
Et 2 opposants.
Mais est-ce que Gérard Depardieu ira allumer la flamme olympique?
En scooter, sur un filin de 5 cm. Gérard, faudra pas boire avant cette fois-ci.
Et donc, par contre, il y a une date qui a été ajoutée, qui a été confirmée, c'est le retour du Grand Prix d'Autriche.
Ça, par contre, de nouveau, donc, le circuit.
Au Red Bull Ring, donc n'oubliez pas, le Red Bull Ring, c'est au bout de la route Red Bull, ensuite vous prenez la rue Red Bull.
Le rond-point Red Bull.
Le rond-point Red
oui,
Bull.
Oui, eux, ils ont un contrat de 7 ans, de nouveau, le côté Grand Prix européen, moi, je suis content.
Un jour, Red Bull rachètera l'Autriche, ils appelleront ça Red Bull Land.
Moi, ce que j'espère, c'est que normalement, ils vont quand même apparemment devoir faire des petites modifications sur le circuit pour accueillir la Formule 1. J'espère qu'ils vont pas asphalter les dégagements. Parce que les dégagements sont encore en gravier, si on en croit notre invité de la semaine dernière, du dernier mag. Et donc, enfin, voilà, tu pars à la faute, tu sors un peu large. Là, si tu essayes de doubler Massa un peu large... Tu mets les roues dans le gravier, tu ralentis, ça reste devant.
Et puis c'est des circuits qui seraient en adéquation avec les règles, quoi.
Voilà, c'est totalement...
En plus, il y a des beaux petits virages sur ce circuit.
Ouais, ouais.
Bien fermé et tout.
Le premier virage, Austin n'a rien inventé. Si le point de corde est moins impressionnant qu'à Austin, mais dans le principe, ils n'ont rien inventé.
Ah oui, c'est le même truc, oui. Ça se rappelle encore. Ah oui, c'est cette montée avec ce truc. Oh là là, le premier virage.
Ah, vivement.
Oui, puis la piste est... Enfin, le problème, c'est que finalement, la piste est encore... C'est comme en Hongrie, finalement, la piste est étroite. C'est ça qui favorise pas non plus. En Hongrie, les dépassements. Oui. Maintenant, sur l'Autriche, il y a quand même des plus gros freinages. Le premier virage, je pense que le deuxième est dans le même style, mais en descente. Donc, il y a quand même moyen éventuellement de passer... même si c'est pas le circuit où il y aura le plus de possibilités de dépassement. Avec le DRS, il y aura moyen d'avoir des belles choses, je pense.
Et enfin, dernière actu principale cette semaine... C'est Mercedes qui, après Renault, a présenté son V6. Donc apparemment, eux, ils l'ont bien tourné à 15 000 tours. Hein.
Oui, c'est ce que nous disait notre expert Gus.
Oui.
Qui n'est pas là pour l'instant, mais qu'on aime.
J'ai trouvé que ça faisait un drôle de bruit, surtout au freinage, moi, en fait. Dans les moments de décélération. Sinon, je trouvais que le bruit était effectivement plus sympathique que ce qu'on avait entendu sur le Renault. Mais c'est vrai qu'au freinage, c'était assez... Parce que c'est ça aussi qui fait le sel, je trouve, de la Formule 1 quand tu vas sur les circuits, c'est le freinage. Parce que c'est non seulement quand tu vois la Formule 1 arriver, c'est impressionnant parce que ça freine très tard. C'est le bruit du moteur. Là, j'ai trouvé que c'était un... Bah bon... Oh, faut vivre avec son temps.
Il va falloir s'habituer, quoi.
Mais le reste du bruit à l'accélération ou à pleine puissance, forcément, c'est moins fort parce qu'il y a moins de temps, etc. Mais je croyais que ça avait quand même un bruit de moteur de course, quoi. Mais au freinage, c'est là que ça, la plus grosse différence s'est fait sentir pour moi.
Je sais plus sur quel article, quelqu'un disait, vous inquiétez pas, les voitures resteront rapides l'an prochain. Hein. C'est pas un moteur de 75 chevaux quand même qu'on va foutre dans les voitures l'an prochain. C'est voilà, c'est du V6 turbo, bon, c'est différent, bon, on peut regretter, mais ça continuera quand même à aller vite.
Celui qui regarde les grands prix uniquement à la télévision, ça va pas non plus.
Non, mais exactement.
C'est énorme. C'est vraiment pour ceux qui vont sur les circuits qui vont noter le plus de différence.
Oui.
Dans son salon, tu mettras le volume un peu plus fort. Hein.
Voilà. Comme ça, t'entendras les commentaires de Canal en plus, en prime.
Ah, ils ont toujours pas réglé leur prime de.
C'était limite. C'était limite.
Par contre, je ne vois pas quel est le petit nom qu'ils ont donné à ce moteur. Surtout qu'en plus, Mercedes, souvent, c'est des noms de code.
J'ai pas regardé.
Assez barbares sur leur nom de moteur. Ouais, mais c'est pas comme Bruno, c'est comment c'est.
Mais merci Pirelli, je crois, le nom de code du moteur. Mais c'est provisoire.
Avec une dédicace à Luca Di Montezemolo.
Avec un petit cheval cabré, collé, tu sais.
Non, tu sais, le cheval, dans les cirques où ils se mettent les pattes avant repliées, tu sais, l'espèce de salut du cheval. Bretement, le cheval qui se prosterne devant l'étoile Mercedes.
N'empêche que maintenant, il ne manque plus que le Ferrari, c'est le seul qu'on n'a pas vu.
Oui, et le pure, mais bon.
J'allais parler
le pure. Pure. Le pure, non, s'il te plaît, ça n'est pas le pure, c'est le pure.
Ah, pardon.
C'est en français.
Pardon, pardon. Ah. Je suis désolé, là, honte à moi.
Propulsion universelle, machin. Ouais, universelle, tu pas universelle, c'est personne. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû l'appeler.
Mais c'est ça, en fait, puisque c'est personne, c'est universel.
Ouais, ouais.
C'est philosophique comme
ça. Et le nom, c'est le Eco Power.
Pour le Mercedes.
Pour le pur.
Bah oui, très très économique, hein. Mais ça c'est sûr.
Ils ne l'ont pas fabriqué, c'est économique. Hein.
Ouais, et puis il pollue pas, donc il est écologique en plus. Eco Power, c'est bien comme nom. Je suggère à Greg Pollock, ça pourrait être vendeur.
Oui. C'est le Coca-Zéro des moteurs. Il ne consomme pas d'essence, il ne produit rien. C'est normal, il n'existe pas.
Ben voilà l'avenir.
Le même bruit avec zéro essence. C'est possible.
Ah, ça existe déjà. Tu achètes un aspirateur Dyson.
Oui, c'est vrai.
Concrètement.
Ça marche moins bien, mais bon.
Attends, excuse-moi, les moteurs Dyson tournent 5 fois plus qu'un moteur de F1.
Mais place ton moteur Dyson sur ta.
Moi, j'attends Gus Gus pour parler.
Sur ta ZX. Tu verras qu'elle avancera pas. Quoique peut-être qu'en l'orientant un peu. On va demander à Gus Gus en fait.
Oui.
Ce serait un bon débat. Ça. Moi je propose qu'on lui donne ça, Gus Gus, pendant les vacances. S'il s'emmerde, il sait pas quoi faire. Est-ce qu'un moteur d'aspirateur Dyson pourrait équiper toute la grille?
Il tourne 5 fois plus vite, alors ça va être pas mal. Chers collègues, on va passer au sondage.
Ah oui, tiens, le sondage.
Oui.
Quel était-il?
Ce magnifique sondage.
C'était un très très bon sondage. J'étais pas là, mais à l'écouter, c'était une excellente idée. Et souvenez-vous, le sondage, elle commençait avec cette simple phrase. Moi, successeur de Bernie, vous avez été 129 à voter. Merci à vous tous. Vous avez été 2 à proposer, j'imposerai le retour des Formula Unas.
Les gens n'ont pas de goût. Enfin, je suis franchement, j'ai une petite idée de qui a gagné parce que j'ai un peu suivi. Pas jusqu'au bout, jusqu'au 4... finish comme on dit. Mais
4 personnes ont voté. J'interdirai à ma fille de poser nue dans les magazines.
De nouveau, ils n'ont pas de goût. Enfin, ça dépend de la tête de la fille, mais ils n'ont pas de
Écoute,
goût.
Je pense qu'on peut se féliciter d'avoir un public très au-dessus des choses, un petit peu, comment dire, terre à terre.
5 votes, j'augmenterai de 75% les droits d'entrée au calendrier. 7 votes, j'abolirai la coupe au bol.
Alors là, par contre, moi, je pense que ce serait quand même le plus gros dossier à traiter.
La coupe au bol, ouais, c'est vrai.
Plus, que... Non, mais c'est plus possible.
11 votes ex aequo. On trouve, je prendrai 30% de moins que mon prédécesseur. Ce qui, même 30% de moins, ça fait beaucoup, hein, faut le dire. Ouais. Mais surtout, 11 personnes ont dit, je serai grand.
En il plus, il a pissé avec l'âge, hein.
Ah bah, comme tout le monde, hein, il se tasse.
Et comme les queues de vache, hein.
Pour 14 personnes, je rachèterai le fameux motorhome de Margot Laffitte, hein, qu'elle nous a présenté la semaine dernière. Réécoutez l'émission si vous ne savez pas de quoi on parle.
D'ailleurs, si Margot nous écoute, j'attends de le voir à Francorchamps fin du mois.
Vous avez été 15 à choisir « Je promets d'épouser une femme qui aura moins de 40 ans de différence avec moi ».
De nouveau, question de goût. Enfin, je voudrais pas enfoncer des portes ouvertes, hein, mais...
Oui, laisse cette porte tranquille.
Vous avez été 19 à dire que, tout simplement, si vous étiez successeur de Bernie, vous seriez donc un mytho.
Immortel. Vous seriez donc immortel.
Et donc, à la première place, avec 41 votes, et on voit qu'on est un podcast français, hein, faut le dire, hein, quand même. Hein. Vous avez choisi, moi, successeur de Bernie, je réintégrerai le Grand Prix de France au calendrier, avec près d'un vote sur trois.
C'est beau de rêver.
C'est mal barré quand même, hein. Faut être honnête.
Oui, là, de plus en plus.
Je dirais pas que c'est impossible, mais c'est mal barré.
Et il faudrait que Red Bull investisse en France, hein. C'est...
Ah, peut-être que c'est la France qui vont racheter Red Bull.
Ou les Qataris.
Oh. Ah, peut-être.
Creuser de ce côté-là. Il y a peut-être plus de chances avec eux qu'avec, qu'avec Red Bull.
Mmh. Ouais. Oui, oui, c'est pas bête. Ouais. Je vais appeler Nasser.
Et parce que je vous écoute, hein, que vous avez soumis cette idée, mais alors complètement improbable et folle, qui est de parler des deux sondages à la suite. Messieurs, avez-vous une idée du sondage de cette semaine? Un bon sondage pour cette trêve estivale.
Ah, alors, un truc sur les vacances. Sur ce point-là, donc je vais me taire.
Alors, ah, vous avez toujours pas utilisé votre ta gueule synchronisée.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Moi, j'ai juste à attendre, hein, c'est lui qui commence.
C'est moi qui le tape.
Oui, bah oui.
Ah ouais, mais c'est une mauvaise idée, en fait, que j'ai eue. Faut que Gus Gus arrive, hein.
Ouais.
Vite.
Ah, mais moi, pourquoi c'est pas lui qui doit l'avoir, Gus Gus?
C'est-à-dire qu'il arrive.
Bah, c'est-à-dire que si lui est pas là.
Voilà. Ah oui. Oui. Non, c'est bon, hein.
Un sondage, oui, pour les vacances, un petit.
Qu'aimeriez-vous que Lewis Hamilton vous prenne en photo? Parce qu'il nous montre quand même les boules de son chien.
C'est vrai, et c'est pas les boules de Noël, hein, faut bien le dire, c'est les boules de son chien.
C'est les boules de ressources.
C'est vrai.
D'ailleurs, tu peux nous rappeler ce beau tweet que tu as écrit, Ben?
Ah oui, j'ai tweeté Lewis, c'est quand c'était Nicole qu'on voulait ce genre de photo. Oui. Enfin, je pense que je suis pas le seul à avoir pensé ça, je suis peut-être le seul à l'avoir dit tout haut, mais bon.
Oui, oui.
Après, les gens interprètent comme ils veulent. Hein.
Donc, quelle photo de Lewis aimeriez-vous voir sur Instagram? Parce que c'est sur Instagram qu'il pose toutes ces photos. Quelque chose comme ça?
Ouais, quelle photo aimeriez-vous que Lewis partage avec vous? Instagram, oui. Twitter, ouais.
Partager avec vous.
Ah, sauf si on a introduit une autre idée, hein, moi, c'est... Je lance.
Mais non, mais c'est un beau petit sondage estival, léger.
C'est pas mal, ça. Il y avait ça ou la musique.
Ah oui, la pochette de son premier album.
Bah oui, ça peut être une des photos. Sympa.
Déjà qu'il dévoile le premier titre du titre.
Isabelle, ça va être Nicole revient, je pense.
Oui, c'est vrai.
Si tu, si tu reviens.
Voilà, on peut faire un sondage sur quelle chanson aimeriez-vous que Lewis chante sur son album.
Mais trop.
Ouais, si tu reviens, j'arrête tout. Ça, c'est obligé.
Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas.
Alors, attendez. Déjà,
qu'est-ce que tu fais pour les vacances?
Le dimanche à Bamako. Le téléphone. Bon.
Oula, attendez, il y a trop de titres là, j'ai trop de titres en même temps.
Alors, on a le dimanche à Bamako. Ne me quitte pas. Si tu reviens, j'arrête tout.
Attends. Ne me dimanche à Bamako, ne me quitte pas.
Le téléphone pleure.
Qu'est-ce que tu fais pour les vacances?
Qu'est-ce que tu fais pour les vacances?
On est à 5 là, c'est ça?
J'ai ne me quitte pas, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Le dimanche à Bamako, le téléphone pleure. Et lequel j'ai oublié?
Si tu reviens, j'arrête tout.
Si tu reviens, j'arrête tout.
Un inédit.
Ouais, un inédit.
Il a pas de chanson sur son chien?
Le Yuki? Ah, ça va pas parler aux gens, ça, je sens.
C'est qui dimanche à Bamako, c'est qui chante ça?
Amadou et Mariam.
Non, c'est parce que...
C'est parce que tu veux te refaire tout l'intégral?
Mais non, c'est pour vérifier le titre, en fait.
Non, c'est le dimanche à Bamako. C'est...
Ouais, mais je suis pas sûr. Ouais. Mais bon, je vérifie.
Vas-y.
Sinon, il y a I have a dream, ou I have a dream, je sais plus si c'est lequel c'est. Lui qui adore Luther King.
Oui. Remixé. Avec David Guetta, I have a dream.
I have a dream, featuring.
Featuring. mais faudrait faire des featuring sur toutes les chansons.
Bah, dans ce cas-là, c'est Le Yuki featuring Grosco.
Featuring Grosco, ça parlera aux gens, ça.
Il y a Formidable aussi.
C'est pas la chanson que je pense.
Quoi?
C'est quoi? Vas-y, chante.
Non, d'abord, je chante pas. Non, c'est celle de Stromae.
Ah d'accord. Oui, d'accord.
Ouais, parce
on
que...
a pensé à la même.
Je crois que oui.
C'est normal, t'as pas connu ton des manèges, c'est pour ça.
Mais c'est ça.
Ah, c'est le dimanche à Bamako, c'est ça. Putain. Ah, ouais. Sinon, en 2005, Amadou et Marianne ont sorti aussi « Je pense à toi ».
Oh mais non, il y en a déjà plein.
Ça fait
pas,
trop, là.
Le téléphone pleure.
Y a pas un truc sur les une chanson avec les chiens?
Y a
le Yuki.
Le Yuki.
Ouais, vous avez pas vu Mirza? Moi, ça me parle pas, ça.
Ouais, tu connais pas le Yuki, mais c'est légendaire.
Vous avez pas vu Rosco?
Vous avez pas vu Rosco?
Non, mais note à Rosco. Vous avez pas vu Rosco, c'est bien ça.
Le Yuki featuring Rosco.
Ouais, ouais. Il en manque combien, là?
3. Là, j'ai Ne me quitte pas, Qu'est-ce que tu fais pour les vacances, Le dimanche à Bamako, Le téléphone pleure, Tu reviens, j'arrête tout, Le Yuki featuring Rosco et I have a dream featuring David Guetta.
Hey, Quoi ma gueule featuring Adrien Sutil. C'est pas Quoi ma gueule d'ailleurs la chanson, c'est Ma gueule, non? Ouais. Ouais, mais ça parlera pas aux gens.
Ah, ouais, ma gueule, sinon, il y a Le pénitencier featuring Bernie.
Ah oui! Excellent!
C'est mieux ça!
Excellent!
Ah, sinon, bon, ça va encore faire audite, mais il y a le « J'ai encore rêvé d'elle ». Non, il en manque 2.
Là, ça, il y a déjà plein des chansons d'amour, là.
Ouais, non, mais c'était juste parce que je la trouvais drôle, il fallait que je la cite.
Le pilote featuring Gus Gus.
Ah oui, c'est quoi, oui. Oui.
Mais si, le pilote, enfin,
le
titre, le single qui a fait connaître Gus Gus, bordel. Je peux pas ne pas savoir ça.
Mais dans ce cas, est-ce que je devrais pas plutôt mettre le pilote de Gus Gus featuring Lewis Hamilton?
Bah, si c'est le qu'on parle de Lewis.
Forcément, il est dessus, quoi.
Oui.
Ouais.
Alors, je mettrais un featuring...
Donc, le pilote
featuring Gus Gus. et pour rester dans le featuring, moi, je conclurais sur une note... religieuse, avec Oula. Un
ah oui, bah oui.
Ave Maria featuring François 1er, tu vois.
Featuring le pape François, oui, c'est pas mal.
Ou un petit Alléluia, quoi, tu vois, un des deux.
Ah oui.
Ouais, mais avec le pape François, c'est pas assez... Non, tu vois, faudrait plutôt
Benoît XVI, featuring Benoît XVI, sinon on va...
Non, un truc, tu vois, genre avec les Daft Punk, tu vois, un truc comme ça.
Oh non, le prêtre rock'n'roll chez vous, les...
Chez nous.
Vraiment. Le mec qui est...
Oh ouais, mais alors là, oui, je vois ce que tu veux tout, dire, là. Mais... T'as pas parlé
de lui. Il est français, lui.
Ouais,
ça pourrait être drôle.
Bah, je pense pas
c'est drôle, lui, si les gens le connaissaient.
Oui, voilà.
Ouais.
Ouais, non, mais parce que... Mais faudrait trouver un truc avec Pirelli. Un featuring avec Paul Embury.
Il y a les bonbons, mais c'est...
Non. Je sais, pour Paul Embury. Burn, baby, burn. Featuring Paul Embry.
Ah ouais, c'est pas mal.
Allumez les pneus.
Non, il est bon ce sondage.
Il est bon. Il y a des chansons qui restent sans featuring?
Oui, il y en a 5, il y a les 5 premières en fait.
Bah redonne-les un peu. Qu'on...
Redonne-les.
Ne me quitte pas. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Le dimanche à Bamako.
Featuring Fernando Alonso là. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Un truc comme ça. On va trouver un...
Le téléphone pleure. Et si tu reviens, j'arrête tout.
Oh, bah, si tu reviens, j'arrête tout, featuring le petit Nicolas.
Oh, oh non.
Ah, on est obligé.
C'est toi qui dis le petit Nicolas. Oui, parce qu'on fait
il
gaffe.
A dit, hein. Il a pas dit le petit parce Grégory, nous... c'est déjà bien.
Nous, on fait gaffe en France, il va peut-être revenir, tu comprends, alors on prend nos précautions.
Ouais, mais c'est parce que le petit Nicolas, ça... Moi, je passe au personnage de BD.
Ouais, ouais.
Oui.
Bah, vraiment aussi. Pas de...
Ah, tu voulais pas nous placer une imitation?
Oh.
Je sais pas ce que t'en penses, Shinji, mais bon, ça mériterait quand même un petit ta...
Gueule!
Tout de suite, là? C'est oui. ta gueule aussi?
Oui, parce qu'en fait, on a gagné sur le fil tous les deux. Et comme t'es désagréable d'entrée, on est obligé.
Le pauvre. En plus, alors qu'on parle de son actualité.
Oui,
musicale, en
plus. Ceci dit, moi, je propose qu'on donne après ce magnifique ta gueule. Il aura usé toutes les formes. On lui offre l'immunité pour les prochains mags.
C'est vrai.
Ça fait quand même 3 fois d'affilée.
Bon, donc si tu reviens, j'arrête tout. Je le fais avec qui?
Donc il en reste 4 avec un featuring qui manque.
Oui.
Il y a Ne me quitte pas. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances?
Ça serait bien de le mettre avec un pilote qui...
Bah, qu'est-ce que tu fais pour les vacances, Adrien Sutil?
Oui,
là, ça
oui,
pourrait être drôle, là, pour le coup.
Ah, ils vont pas passer leurs vacances ensemble. Ouais, ouais, ça serait bon, ça.
Il en reste trois.
Oh, faudrait faire un featuring avec Nicole, quand même.
Bah, ne me quitte pas, ou le téléphone pleure.
Ouais, le téléphone pleure.
Téléphone pleure, featuring Nicole, ouais.
C'est vrai.
C'est pas faux. Il est bon, ouais. Celui-là, c'est vrai.
C'est pas faux.
Born to be alive.
Bah, à la limite, si ne. Comment ? Ne me quitte pas.
Ouais, on peut l'enlever.
On le trouve pas, on le vide, on met celui de la possession de Gus Gus, ouais.
Ouais.
Et donc, il a les yeux revolver, featuring Helmut Marko.
Sur une idée de Gus Gus, faut le dire, parce qu'on l'entend pas, mais c'est sur une idée de Gus Gus.
Parole de Gus Gus.
Et donc, il en manque une, c'est ça ? Ou on est complet ?
Il en manque une. Il manque le dimanche à Bamako.
Dimanche à Bamako.
Featuring Daft Punk.
Ah ouais, un truc bien électro.
Ouais, ouais, ouais,
ouais,
ouais.
Ça peut être marrant, ça, ouais.
Et ouais, voilà. Ouais. Qui marche en ce moment.
Voilà, on est bien là.
Cette semaine, pour les vacances, on va parler culture, on va parler musique. Et on vous propose de choisir quelle chanson aimeriez-vous que Lewis chante sur son album. Vous aurez le choix entre Burn Baby Burn featuring Paul Embry, I Have a Dream featuring David Guetta, Le Dimanche à Bamako featuring Daft Punk, Le Pénitencier featuring Bernie, Le Lot featuring Gus Gus, Le Téléphone Pleure featuring Nicole, Le Yuki featuring Roscoe, Qu'est-ce que tu fais pour les vacances featuring Adrian Sutil, Si tu reviens j'arrête tout featuring Le Petit Nicolas ou bien Les Yeux Revolver featuring Helmut Marko.
Il est quand même franche. Je pense que c'est une idée pour la fin de saison qu'on décerne dans les SAV d'or du sondage du mag.
Je crois que c'est une idée qui est déjà que... quasiment depuis le premier mag en fait.
Parce que y a du lourd.
Là et lui quand même pour le déloger.
Après ce moment des sondages, on va revenir rapidement sur les actus dont on se fout, hein. Et bon, on va pas rester longtemps sur cette actu, mais sachez que Fab a quand même répondu en cinquième actu la réponse D. Ce qui, d'une certaine
oui,
façon, est illogique, puisqu'il y a cinq actus. Donc, normalement, sa cinquième actu devrait être la réponse
mais non,
E.
Mais vous avez tort. La réponse D se suffit à elle-même. et je ne me justifierai pas plus là-dessus.
Sinon, bah, notamment, c'est des actus de Gus Gus dont on va parler. La FOM et la FIA signent un accord sur les accords Concorde.
Ouais, parce que
c'est une sorte de pré-accord, en fait, d'ailleurs, hein, c'est pas le...
Et en fait, c'est une info qui est venue le week-end où il y a eu sur différents sites plein de trucs, notamment au niveau des gestions des accréditations, des autorisations données aux journalistes, etc. Et voilà, j'avais un peu le mal de sortir le vrai du faux. Et donc voilà, j'ai pas l'impression que c'est une signature qui scelle l'accord dans le marbre, donc voilà.
Sinon, Gus Gus nous a aussi rappelé qu'Ecclestone s'enfonçait dans les affaires. C'est l'intitulé de son... Je ne reprends que l'intitulé.
Ouais. Il va falloir nous expliquer, Gus Gus.
Ça fait pas 5 minutes,
ça doit faire 5 minutes.
C'est que le sandwich. Le sandwich durait plus longtemps que 5 minutes.
Oui, il a posté à 21h23. Tu peux revenir, Gus Gus. Enfin, tu peux venir, pardon.
Mais du mal à passer.
Alors...
Oui, non, mais c'est pour rappeler, parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup, et d'ailleurs, moi-même, ça j'arrive pas à m'y intéresser, mais quand même, avec les Stones, les taux se resserrent quand même sérieusement, quoi. Parce que, donc, si j'ai bien compris, il s'est fait attaquer en justice en Angleterre par une entreprise qui s'est dite flouée pour au moment de la vente de la F1, parce qu'apparemment, les casseroles se sont accumulées au même moment, parce qu'il aurait vendu la F1 à un prix dérisoire, puis il y aurait une plus-value, et quand il y a eu la vente, il a fait en sorte que ça dépasse pas, enfin c'est un bordel monstre, et c'était surtout pour dire qu'on a du mal à s'y intéresser alors que ça a l'air quand même assez important et que ça risque de faire je pense que ce sera l'actu qui fera les choux gras de la fin de saison ou du début de saison 2014.
Mais il y a un peu de fatalisme je crois.
Oui,
je pense que les gens se disent à quoi bon, en fait.
Ouais, je pense aussi.
Je crois que c'est ça le truc. Effectivement, parce qu'on parle quand même de l'homme le plus puissant du sport automobile, celui qui a bâti une fortune sur la F1, alors d'abord en tant qu'acteur à part entière en matière sportive, et puis après en étant dans les instances et en profitant allègrement du jeu qu'il avait lui-même mis en place pour s'enrichir, notamment au détriment des organisations. organisateurs, notamment le Grand Prix. Et c'est vrai que, comme tu le dis, là, il a jamais été plus proche de sa chute, quoi. Parce qu'à un moment, à son âge, malgré tout, même si on sait qu'il a la forme, ce qu'il a maintenu jusque-là dans ses fonctions, il va quand même avoir du mal à gérer de front son poste de président de la FOM et ses affaires judiciaires, même si évidemment il s'en occupera de manière très lointaine, je pense. Il y a aussi ça qui fait, parce que c'est quelqu'un qui est très libre, hein, il se promène dans le paddock sans aucun problème, enfin je veux dire, ses affaires judiciaires en apparence lui pose pas problème. Enfin malgré tout, on parle quand même de plus en plus de, on évoque des noms pour la succession, ce qui est déjà quand même une évolution par rapport à avant. Mais c'est vrai qu'effectivement ça intéresse pas grand monde et c'est très difficile d'y trouver un véritable intérêt, alors que effectivement c'est quand même très important, quoi.
Et le jour où il va tomber là, ça va être un vrai raz-de-marée, quoi. Là les gens vont vraiment s'y intéresser.
Là pour l'instant il est juste mis un cul.
C'est pas encore
voilà, il est un cul concret, il est cité dans un truc. Le jour où il sera condamné à un truc, là par contre ça va sortir.
Là ça va être.
Oui, et puis ouais. Je mets au défi quelqu'un qui s'y intéresse de comprendre vraiment ce qu'il en est, quoi, parce que c'est un imbroglio, ouais. Pas possible.
Oui, parce que moi ce que j'ai compris, c'est une société qui a vendu ses parts à une autre société qui a racheté d'autres parts à côté, avec l'assurance à l'époque, donc la société A a vendu à la société B, l'assurance que la société B redonnerait un pourcentage sur le jour où elle vendrait ses parts. Ce qu'elle
si,
a fait.
Si le montant dépasse, ouais, si un milliard de dollars.
Je crois. Or, ça, c'est un peu en dessous des 900 millions, je crois, la vente s'est faite. Et donc, la société A n'a rien touché dans la société B. Et la c'est... société A attaque maintenant parce qu'elle estime que l'estimation de la vente a été trop faible, et donc elle est flouée.
Et en plus, la vente était déjà frauduleuse, puisque c'est les fameux pots de vin de monsieur Gripkowski. Et qui justement avait fait pression pour que la vente soit pas, enfin je sais pas qui avait fait pression sur qui, pour que la vente soit pas vraiment soit sous-évaluée, quoi. Enfin, comme disait Christophe Malbranche quand il expliquait un truc un peu technique, tout cela est très compliqué.
Mais c'est vrai que c'est pas, enfin plus moi le domaine économique, c'est pas le domaine mon domaine de prédilection, donc ce qui explique aussi sans doute mon désintérêt. Partiel,
oui.
Puisque forcément ça touche Bernie, donc ça touche la F1, et t'es obligé de quand même t'y intéresser un minimum. Et après, pour essayer de vraiment analyser le pourquoi du comment, c'est vrai que c'était la minute Steph Kerr.
Oui, on le salue.
Salut l'artiste.
Steph Kerr, si tu nous écoutes.
Sinon, Gus, t'as aussi voulu revenir sur l'IFIA qui étudie les arrêts au stand pour corriger la sécurité.
Mais j'ai fait un top 5 quasiment ou...
Si, non, il y a des trucs, t'inquiète pas.
D'accord. Oui, parce que outre le fait d'enlever les journalistes et les caméramens, etc., de la voie des stands et d'étudier la possibilité de faire un temps minimum d'arrêt, ce qui a été refusé par les écuries, on a pu lire, je crois que c'était sur Autosport, que la FIA commençait à s'informer auprès des écuries de comment elles procèdent lors des arrêts au stand, avec quel matériel, etc., etc. Les feux, les pistolets, les sucettes, etc. Et je trouve que c'est un bien meilleur pas que tout ce qu'on a eu le droit jusqu'ici, à savoir, donc, comme je disais, enlever les journalistes, enfin vider la pit lane de ces occupants.
Oui, le problème c'est que la roue part, pas qu'il y ait des gens.
Oui, voilà, c'est ce qu'on a déjà dit, on a dit ça dans plusieurs émissions précédentes. Maintenant, il va falloir que ça débouche sur des effets, donc on attend de voir.
Et là, c'est pas gagné.
Voilà, c'est là où tout coince avec la FIA. On étudie beaucoup, mais...
Je me posais la question, c'est peut-être une idée un peu folle, mais ne serait-il pas possible, comment dire, de contrôler électroniquement la fixation de la roue? Dans le sens où on peut imaginer, par exemple, que si les quatre roues ne sont pas bien fixées, le CE dirait « la voiture ne démarre pas ».
Alors, je crois que justement, c'est à l'étude un capteur de fixation de la roue, mais apparemment il faut du temps de développement. Ça arrivera pas en 2014.
C'est une idée qui pourrait être envisagée. C'est pas une idée folle, quoi.
C'est une idée qui est envisagée. Je crois que justement c'était dans cet article. C'est une des parties de cet article que pour l'instant on essaye de faire en sorte qu'on puisse contrôler électroniquement si la roue est serrée ou pas, mais que c'est en projet, quoi. C'est en développement.
C'est con que Mark Webber s'en va. Ça l'aurait pu changer des problèmes de kerf, c'est un problème d'écu de temps en temps.
Donc voilà, c'était les quelques actus dont on se souvient. Il n'y a eu pas beaucoup cette semaine. Juste pour revenir dessus, parce que t'étais pas là, on en a parlé. C'est le V6 Mercedes. Qu'est-ce que toi tu en as pensé?
Alors déjà, j'ai pas fait les calculs, mais j'ai regardé à l'oreille, j'ai comparé avec le son que j'avais remis à 15 000 tours. Le V6 Mercedes, lui, est autour de 15 000 tours. Donc il est pas au-dessus, donc il est, s'il y est pas à 15 000, il est à 14 700, quoi, et des bananes. Donc, soit ils ont été très intelligents et ils ont fait comme j'ai fait avec le V6 Renault, c'est-à-dire qu'ils ont remis le son à 15 000 tours, je pense pas vraiment. Soit vraiment, eux cachent pas leur jeu comme Renault, ou alors Renault sont vraiment largués, mais je pense pas non plus. Hein. Et soit Renault cachait son jeu et bah je sais pas pourquoi mais enfin voilà. En tout cas le Mercedes lui, je peux le certifier, était à 15 000 tours dans le son qui a été mis à disposition. Après au niveau du son, j'ai pas vu de grosses différences avec le Renault quoi. Il y a toujours ce même un peu un bruit d'aspirateur,
ah oui,
de turbine hein, grosso modo.
On s'était posé une question.
Oui.
Oui.
Il n'y a que toi qui pouvais répondre.
Qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça ferait ou quelle efficacité? Je sais plus.
Ah voilà, c'était la possibilité tout simplement.
Attendez, je me rassois.
Ouais, ouais.
Parce que je pense que ça va être compliqué.
Ouais, parce que chez Dyson, ils font des moteurs qui tournent 5 fois plus vite.
Voilà.
Que des moteurs de F1.
Donc bon.
Donc on s'était dit un truc, pourquoi s'emmerder à développer avec des millions un moteur?
Oui, bien sûr.
Est-ce que oui, ça pourrait marcher?
De mettre un aspirateur?
Non, pas l'aspirateur, juste le moteur.
Enfin, si tu veux faire une voiture
qui aspire,
bizarre.
Oui, pourquoi pas? La piste sera plus grande, c'est trop bien.
C'est pas mal avec les marbles.
Oui. Non, mais c'est plus un turbo, après. Enfin, c'est un compresseur qui n'utilise pas les gaz d'échappement. Enfin, c'est...
Non, mais voilà, c'était un projet pour toi, pour les vacances, que t'as un grand truc à réfléchir pour
ah oui,
mois.
Le grand truc à faire pendant les vacances.
C'est toujours le projet de construire cette F1 du SAV. On cherche un moteur.
Voilà. Ah oui, moteur Dyson.
La SAV Dyson, c'est pas mal.
Allez, après les actus, on va passer aux citations.
Et merde.
Pardon. De toute façon, Fab a pris la priorité sur les citations, donc...
Moi, je vais commencer par la mienne, pour une fois.
Non,
je vais commencer par la mienne.
Mais non, je quitte cette émission.
Ah, c'était pas aussi dictatorial.
Ah, non, vous avez vu, hein.
Bon, bah vas-y.
Vas-y, Bernie.
Mais non, belle mais vous allez l'aimer, en plus, cette citation. Mon père m'a toujours dit que je devais éviter de frapper les petits garçons.
C'est dégueulasse.
Mais... Je le savais, c'est pour ça qu'il fallait que je la fasse.
Ah bah oui.
Mais c'est moche, mais...
Mais je savais qu'il fallait que je revoie l'émission pour en sortir des citations.
Pas celle-là.
Heureusement que j'en ai une autre.
Bah voilà. Donc vous le savez, puisque vous l'aviez déjà choisi.
Oui, elle m'a fait
c'est
rire.
Une citation de Mark Webber qui a été invité chez Top Gear et...
Il avait pas l'air content d'être là hein, quand même. Enfin, il n'était pas aussi très très jovial, enfin, très.
Il avait quand même l'air trouvé, d'être content d'avoir fait le deuxième temps au fameux tour.
Oui, oui.
Hein, il a battu Vettel. Vettel avait fait un temps de 1:44. Lui, il a fait un temps de 1:43.1 à 2 dixièmes du record de Lewis Hamilton.
C'est con que ça lui rapporte pas des points au championnat.
Voilà.
C'est le seul truc qu'il arrive à finir devant.
Et donc, on lui a notamment posé des questions sur ses relations avec Sébastien Vettel. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faisait un peu la gueule, hein, faut bien le dire. Et donc, il a dit que, qu'il n'allait probablement pas beaucoup lui manquer, hein. Et donc, quand on lui a parlé, hein, de ce qui s'était passé au Grand Prix de Malaisie, il a donc dit, mon père m'a toujours dit que je devais éviter de frapper les petits garçons.
Moi, très franchement, ça m'agace, ce genre de phrase, tu vois. Parce que, enfin, il lui reste plus que ça, quoi, à un moment. Je veux dire, j'aime.
Oui, mais on lui pose la question aussi.
Non, mais d'accord. Mais enfin, il y a une manière de répondre ou pas. Il peut aussi botter en touche.
Oui, mais on lui pose la question.
Oui, non, mais dans un contexte très particulier. Mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord sur le contexte, sur le fait qu'on lui pose la question et qu'il y répond. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a eu sa chance. Qui a eu la chance d'être devant Vettel à une époque, qui a pas réussi à le faire, qui depuis ne réussit pas à le faire. Alors dans un contexte, on peut en parler aussi, mais c'est quelqu'un qui sur la piste est bouffé par Vettel depuis des années et qui n'a plus pour essayer de paraître à côté de Vettel, qui n'a plus que ça. Alors moi, ça me fait rire ce genre de petite phrase, c'est drôle, elle est marrante. Mais venant de quelqu'un qui va partir à la retraite, qui est dans la même écurie avec un matériel qui a permis d'être 4 fois champion, qui va permettre permettre, enfin, qui a permis d'être 3 fois champion du monde. Encore une fois, mais même au-delà des soucis de Kers, tout ça, je crois pas que ce soit, voilà. Bref, moi, je dis, il lui reste plus que ça, et ça me désole un peu de sa part. Je pense qu'il vaut mieux que ça, qu'il vaut mieux que ce genre de petites phrases. Il y a plus que pour que ça qui peut le faire exister face à Vettel. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, voilà. Après, moi, c'est mon avis à moi, mais je pense que ça grandit pas Weber. C'est une phrase très drôle. Voilà, bon, on sait que l'ambiance est à chier entre les deux, mais voilà. Enfin, je veux dire, à un moment, il a plus que ça, quoi. C'est ça qui m'agace un peu.
Oh, moi, ça, oui, ça peut agacer la phrase en elle-même. Moi, ce que j'aime bien chez Weber, c'est que c'est un pilote, on se place souvent des pilotes pas charismatiques, très lisses dans leurs déclarations. Bah, Weber, c'est pas ça. Et là, il le montre encore. Peut-être pas le plus bel exemple de ça, mais voilà, c'est un pilote qui, quand il a un truc à dire, le dit. Et là encore, bah, on lui pose la question, bah. Il botte pas en touche, quoi. Il aurait sorti une réponse bateau, on aurait dit, ouais, les pilotes, encore, voilà.
C'est plus que c'était, hein, à l'époque.
Déjà que le niveau du pilote baisse.
Enfin.
Non, mais après, je suis d'accord. Je suis le premier à me plaindre des pilotes et même au général des sportifs qui sont aseptisés, qui ont toujours le même discours, voilà. Mais, bon, il y a une façon de le faire. Il y a des façons plus fines de le faire, je trouve.
Après, je peux comprendre que finalement, sur la question, ta petite pique est presque attendue, voilà, parce qu'on c'est devenu un petit jeu, c'est une habitude. On sait effectivement que l'ambiance est dégueulasse et qui répond une petite pique, c'est pas tellement surprenant.
Puis il y a peut-être eu la méthode Ardisson avec les ciseaux et tout, le montage.
Ouais, ouais, non, mais
qu'on ne fait pas ici dans le SAV.
Ah non, jamais, jamais.
Non, même les RER, on les arrêter avec le RER. Il va vraiment croire que le jeu en veut. Mais...
doucement avec les trucs sur les rails en ce moment, ouais. Quoi, parce que hein, bon.
Ah, nous en Belgique, on n'a pas eu de problème cette année.
Fab, ta citation?
Alors moi, ma citation, c'est je n'aime pas Yvan Muller, c'est Ben. J'ai trouvé ça vraiment. Il parle de quel? Enfin, on parle d'un champion du monde de la FIA quand même. C'est vraiment incroyable, quoi. Et en off, en plus, il n'ose même pas... Il a même pas le courage de ses opinions. Incroyable.
En même temps, on est le SAV de la F1.
Donc, seuls vous deux savez de quoi ça parle, là, exactement. Il a dit ça tout à l'heure, en off.
Il a dit ça avant qu'on commence à enregistrer.
Mais en même temps, on est le SAV de la F1, pas le SAV du WTCC.
Ah, on peut lancer un filon, hein. Ça va attirer 2-3 personnes.
Tu peux sortir une vraie citation, Fab.
Mais bien sûr, Ben. Y a pas de problème. Je rétablis la vérité, puis après je m'occupe des affaires courantes. Alors. Donc ma citation, je lui ai dit, après le Nürburgring, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais continue comme ça. Il marche bien, il est calme, détendu. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est pas la citation, hein. J'ai écrit comme un cochon. il ne panique pas, voilà. Il ne panique pas pour n'importe quoi et il court bien. Et c'est Alan Perman à propos de Romain Grosjean, les dernières performances qui étaient.
Ah, il court bien, j'ai cru que c'était.
Oui. Vous pouvez croire ça. Non, mais voilà, donc c'est intéressant. C'est vrai que visiblement ça va mieux pour Grosjean en ce moment. Moi, ce que j'aime bien, c'est le. Je sais pas ce qui se passe, mais continue comme ça. Je trouve que c'est très voilà, c'est un peu Grosjean, quoi. On sait pas pourquoi, ça se passe bien. Donc bon, faut que ça reste comme ça, quoi. Surtout là, il va arriver à Spa. Bon, c'est un circuit, il n'a toujours pas bouclé un tour.
Deux virages, il a pas bouclé deux virages.
Oui, deux virages.
Oh, mais bah, si. En 2009, il se plante au combe. Il y a plus que deux virages.
Il y a le tour de chauffe aussi, hein, arrêtez.
Ah oui, pardon.
Vous êtes dur. Oh,
bah, deux tours alors.
Alors Ben, est-ce que tu as une citation?
Évidemment, bien sûr. J'ai pas retenu celle de Fab de tantôt, c'est quand même con. C'est là, j'en sens plus les... Mais je suis presque sûr que c'était une critique envers Yannick.
Non, je le sais bien. C'est moche.
Ma citation, c'est « Je suis un pilote de GP3. J'ai eu l'opportunité de tester une Toro Rosso et une Red Bull. Cela a évidemment renforcé ma motivation, mais je n'ai que 18 ans, je suis encore jeune et je ne me vois pas en Formule 1 l'année prochaine. » C'est Carlos Sainz Jr. C'est pour faire écho au petit débat qu'on a eu dans le dernier Mac sur Sergei Sirotkin, qui, à 17 ans, nous estime lui pas trop jeune pour la Formule 1. Voilà, une semaine des plus ou moins d'écart, on a Sainz qui... Évidemment, je pense qu'il est en World Series aussi. Hein. Je sais pas s'il fait toutes les courses, mais il en a disputé quelques-unes quand même. Donc ils sont quand même à un niveau de carrière relativement proche. Voilà, j'ai vu la citation, je me suis dit, on a évoqué Sirotkin dans le dernier Max, c'est un autre écho. Un autre pilote qui est aussi cité comme étant un potentiel pilote de F1 dans les années à venir, et qui lui ne...
Un chanson, Fab, un chanson.
Bah, je laisse ça au talentueux interprète.
Oh, when the Saints goes marching in.
Il le fait en plus.
Eh oui, eh oui. C'est toujours et un bête. Succès.
Pourtant, c'est pas moi qui s'appelle Ben ici.
Non, mais moi j'ai toujours dit que je chanterai pas dans cette émission. Hein, donc,
on y arrivera, on y arrivera.
Non, parce que moi, il y a pas les oreilles qui vont saigner, le nez qui va... Enfin, ça arrive.
Je tiens à préciser quand même à ceux qui ne suivraient pas sur Twitter que Margot Lafitte a apprécié.
Oui, mais on ne sait toujours pas si elle a écouté ça avec des
bouchons
ou pas.
C'est vrai. 170 décibels, hein, c'est...
Donc, Margot, de nouveau, si tu nous écoutes...
Nous écoute.
Et alors, Gus Gus, est-ce que tu as une citation?
Oui, j'ai une citation de Luca Baldisseri, qui est donc le directeur de la Ferrari Driver Academy, qui s'exprime sur Jules Bianchi, qui donc il est devenu le pilote de référence de Marussia en gagnant sa confiance sur la piste. Je considère ça comme un fait fondamental, surtout en Formule 1. C'est-à-dire que même si c'est pas Chilton qui allait être le pilote de référence de Marussia, hein, on va pas se mentir. Bianchi est quand même en train de bien se faire voir de Ferrari, en tout cas via l'académie la Ferrari Driver Academy, je vais y arriver. Et donc c'est bien souligné par Baldisseri, et je pense que c'est quand même un bon point pour Bianchi, si ce n'est pour aller chez Ferrari l'année prochaine, pour soit continuer chez Marussia avec avec un éventuel progrès de la voiture, soit prendre du galon chez Sauber ou ailleurs si le moteur Ferrari arrive dans l'écurie suisse.
C'est vrai que Bianchi marque des points. Hein. Début de saison, il a fait quelques bons grands prix. On a dit c'est très bien, il va falloir qu'il continue. Là, c'est peut-être plus difficile de noter ses performances parce que maintenant Marussia est quand même largué par Caterham. Ils sont quand même les forces se sont clairement percées. Donc ses performances se font discrètes forcément puisque son matériel est moins bon. Mais je pense qu'il démérite pas. En même temps, face à Chilton, nous. Derrière, ce serait quand même une très très mauvaise nouvelle pour lui. Et voilà, il fait le boulot. Maintenant, il y a aussi toutes les informations des retours en interne, le feedback par rapport aux ingénieurs, etc. Que oui. Nous, on ne connaît pas. Que Ferrari a sûrement aussi des échos de ce côté-là.
Bah, c'est surtout ça, en fait, le fait de dire que c'est le pilote de référence. C'est ouais. Qu'on écoute d'abord ce que lui a à dire par rapport à Chilton ou autre, quoi. Enfin, ou autre. Il n'y a pas 36 ans non plus.
Bah, en même temps, même au volant d'une Formule 1, Bianchi a une autre expérience. Même s'il n'a pas beaucoup de roulage, que les limitations sont ses sons, il y en a quand même beaucoup plus que Chilton, et au volant de voiture correcte. Il a quand même roulé dans la Force India, il a roulé dans la Ferrari l'an dernier. Pas la meilleure Ferrari de l'histoire, mais c'est quand même pas une...
Ah, quand il a roulé dedans, à Manicourt, c'était pendant l'été, c'était une bonne voiture, hein. Elle était revenue au niveau.
Oui, bah oui, c'est ça, c'était pas la meilleure Ferrari de l'histoire, mais c'était pas une mauvaise voiture. Donc il y a de l'expérience dans des voitures compétitives, dans des teams compétitifs aussi. Structure compétitive, il sait comment ça marche. Chez Force India, même s'il roulait pas, il observait. Je pense que c'est aussi un apport qui peut apporter, désolé de la répétition, à Marussia. Donc c'est des choses que Chilton forcément peut pas. Lui, il débarque au-delà même de ses qualités de pilote.
Et puis il y a un autre point positif, c'est qu'on en a jamais parlé en mal. C'est-à-dire qu'il s'est pas fait remarquer, par exemple, comme Van der Garde ou même Pic. Hein. Pic, lors de la dernière course, il a eu du mal à se faire dépasser par les pilotes plus rapides. Alors que Bianchi, on n'a jamais...
Mais c'était déjà un grief qu'on lui faisait l'an dernier, je crois, à Pic. Hein. C'est pas un pilote qui s'efface facilement.
En tout cas, Bianchi, on n'en a jamais... Enfin, personnellement, moi, j'ai pas de souvenir qu'on ait une fois critiqué Bianchi quand il se faisait prendre un tour.
Non, moi non plus.
Ok.
Donc bon, tout ça est à continuer, quoi.
Oui.
À voir. Sachant que Massa est peut-être un peu plus sur la sellette que d'habitude, vu qu'il arrive pas à remonter.
Ouais, là, il est officiellement sur la sellette, la Massa. Lui, le même le reconnaît, Montezemolo l'a dit qu'il l'avait
prévenu. Et Calonzo chez Red Bull, c'est fait.
Non, arrête.
mais c'est un peu bizarre, la situation. La situation de Massa, elle est un peu bizarre, parce que... J'ai quand même pas, pour moi, le futur pilote Ferrari, c'est Bianchi, pilote Ferrari Driver Academy, il fait du bon boulot, Effectivement, on n'en parle que pour en dire du bien. Si c'est pour pas pour en dire du bien, on n'en parle pas. Donc dès qu'on en parle, c'est pour dire du bien. Donc pour moi, le prochain à monter chez Ferrari, c'est lui. Mais je vois mal Ferrari le faire monter l'an prochain. Moins qu'ils prennent le risque.
Un risque, c'est sûr.
C'est peut-être souvent qu'ils ont besoin chez Ferrari hein, de prendre
ça,
des risques. Hein.
C'est pas tellement un risque. C'est encore un risque. C'est pas aussi grand. Ça, c'est un peu couillu, quoi. Prendre un pilote qui a qu'un an d'expérience. Parce que sinon, pour moi, je dois remplacer Massa.
C'est un risque de le griller.
En 2015, au plus tard, c'est...
En fait, le risque, c'est de le griller face à Alonso. Quoi.
Ouais, il aurait peut-être besoin d'une étape avant Ferrari.
Ouais,
bah c'est un peu ça.
C'est plus un risque pour... Oui, c'est ça, c'est plus un risque pour... Quand je disais prise de risque légère, c'est plus pour Ferrari. C'est vrai que c'est plus un risque pour Bianchi, en soi, de monter chez Ferrari que l'inverse.
Ouais, enfin, justement, enfin, le risque se retourne pour Ferrari aussi, après. Parce qu'il grille Bianchi, ça va faire comme... Enfin, ça va faire comme Grosjean. Grosjean, il a eu de sacrées casseroles, après, mais... Grosjean, il a commencé en plein milieu de saison, face à Alonso, dans des conditions difficiles. On a vu ce que ça a donné après, quoi, même si ça n'explique pas tout...
Ouais, clairement, ouais.
Et après, en même temps, pour remplacer Massa, tu prends un... Enfin, je sais pas. Bah si,
Hülkenberg,
il fera qu'un an.
Hülkenberg, il avait tout prévu fin 2010, déjà. Un an chez Intel, deux ans chez...
Un an chez Ferrari, puis après, il repartira du bas.
C'est vrai que pour un an, Hülkenberg...
Ouais, bah c'est vrai.
Mais bon.
De toute façon, des candidats...
Bah, Resta, il dirait pas non plus.
Des candidats, oui, voilà.
Oui, des candidats Ferrari.
Il y en aura.
Hülkenberg, le pilote chaise musicale, quoi.
C'est ça.
C'était tout pour les citations, on va passer au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question ? Nous y répondons.
Alors, on n'a pas eu de question d'Adelin pour une fois, mais...
Bon, d'ailleurs, on cherche des signes de vie. Hein.
Gus, tu...
Un Adelin a disparu.
Bon, il va bien, oui, il a adoré Macron.
Il a compris ton humour.
Ah non, il va pas bien, alors. Il va pas bien.
Non, c'est pas bon du tout.
Non, mais bah, il vit toujours, en tout cas.
Ah, oui.
Après, chacun jugera sa
chronique
mentale. Mais...
Par contre, Gus, tu voulais revenir sur des choses dont tu avais déjà parlé dans le répondeur, que justement, Adelin avait posé un peu la question comme ça dans les commentaires, tu l'avais dit. Bah, on va en parler comme ça dans le répondeur.
On va en parler, oui. C'est la dernière session du répondeur, je crois, il y a 3 semaines, où on avait parlé du double DRS, entre guillemets. Et donc, Adelin nous demandait si Lotus avait le même dispositif l'année dernière avec une sorte de gros tube au centre de l'aileron. Enfin, non, sa question est exacte, c'est pourquoi ils n'ont pas le même dispositif que l'année dernière. Mais en fait, la question est un peu bizarre parce que justement, ils ont le système est complètement similaire, ils ont une sortie de d'air, ils ont les entrées d'air de chaque côté de la boîte à air et ils ont une sortie, ils ont un pilier au centre sous l'aileron, hein, sous l'aileron arrière au centre et avec une sortie d'air juste en dessous avec des ailettes un peu au-dessus quoi. Et donc c'est exactement le même principe même s'ils l'ont peaufiné que le système qu'ils avaient de double DRS qu'ils avaient testé l'année dernière. Je voulais aussi rajouter parce qu'on essayait avec Dino de trouver un autre nom qui avait été donné pour le double DRS de Lotus. Lui avait dit DDRS, mais en fait, je me suis souvenu d'un terme que je lis souvent sur les forums spécialisés. C'est le DRD, Drag Reduction Device, en fait, parce que ça fait appel au nom qu'avait donné Lotus à ce système, le device. Et donc c'est un peu un mix des deux. C'est le terme que j'ai le plus lu. Pour désigner ce système. Et une autre question d'Adelin, c'était un truc qu'il avait pas compris, c'est les composantes du moteur qu'on pouvait changer, enfin du moteur, du power unit qu'on pouvait changer en fait. La subdivision du power unit en six sous-parties qui rentrent dans les règles sportives de au bout de la sixième, tu prends 10 places, etc. Alors, il y en a 6 donc, comme j'ai dit. Il y a d'abord le moteur en lui-même, hein, le bloc, les cylindres, etc. Le MGUK, donc c'est le KERS survitaminé, hein, pour citer l'article de Fab. Il y a le MGUH, donc le HERS, l'espèce de... Bah, c'est le même principe que le KERS, sauf qu'au lieu d'être branché directement sur le moteur, c'est branché sur le turbo. Il y a le turbo, donc, en quatrième partie. En cinquième partie, le stockage d'énergie, donc les batteries, hein, puisque c'est il me semble, le seul moyen de stockage d'énergie autorisé. On n'a pas le droit au fameux volant d'inertie type Williams. Et enfin, en dernière partie qui peut être changée, c'est l'électronique, en fait. Donc, tout ce qui est contrôle de la puissance, etc. Je sais pas si le CU en fait partie, mais je pense que oui. Donc voilà, je résume. Moteur, MGU-K, donc KERS, MGU-H, ERS, les batteries, le turbo et l'électronique. C'est les 6 subdivisions d'un power unit qui font les 5 ou 10 places de pénalité.
Okay.
C'est vrai qu'on n'avait pas précisé ça, donc c'est important de bien le dire.
Alors on vous rappelle, hein, si vous avez des questions, vous avez deux possibilités, soit l'adresse mail répondeur@savf1.fr, ou bien via le module vocal, hein, que vous pouvez trouver sur le site savf1.fr, vous pouvez vous enregistrer pour passer dans le SAV et nous poser une question. On vous rappelle qu'il y a un concours, le concours top à position, et la question de la semaine, ça concerne la Belgique, ça concerne Spa-Francorchamps et ça concerne la bière, hein, puisqu'il existe la Blanche de Francorchamps, hein, une bière, mais malgré que son nom s'appelle Blanche de Francorchamps, elle est vendue aussi sous un autre nom. On vous demande quel est ce nom, il y a même plusieurs noms, mais il y a un nom qui peut paraître étonnant, hein, mais voilà. Sachez qu'elle est vendue sous d'autres noms, et on vous demande sous quel autre nom est vendue la Blanche de Francorchamps. Pour répondre, hein, l'adresse c'est concours@savf1.fr. Cette semaine, c'est une réplica de la voiture de Kimi Raikkonen de l'an dernier, qui est à gagner.
Autant dire qu'il va y avoir des réponses.
Ah.
À quelle échelle, la réplica?
Je crois que c'est du 1,43.
Oh, c'est trop petit.
Ou du 1,18, je sais plus.
Non, c'est pour, voilà, pour que les gens
oh,
sachent.
Oh, mais c'est mignon, une 1,43.
La voiture championne du monde de Raikkonen.
Oui. Non, c'est la voiture de l'an dernier, de Lotus. Oh,
ça va, parce que si tu l'achètes chez Ferrari, c'est ultra cher. Même en 1,43.
Ah, ouais, et puis les Hot Wheels, enfin, je sais pas s'ils sont encore en Hot Wheels, mais...
Ouais,
les petites choses. Enfin, chez Ferrari, il y a plus...
Parce que pendant un moment, ils étaient chez Hot Wheels, et les Hot Wheels n'étaient pas terribles.
Non, les Hot Wheels, c'était pas terrible.
C'est quel fabricant, là, la voiture?
Alors, c'est une 1,43.
Et c'est tout le
non, je pense pas que c'est Lotus.
Altaïa.
Assemblé, 800 numéros.
Non, c'est sûrement du mini.
C'est
sûrement
c'est
du
pas
mini
précisé ouais, sur le bah, site c'est ça, c'est bien. De Lotus.
C'est du Lotus.
C'est possible que ce soit du Lotus. Même si c'est sous-traité, donc c'est pas eux. Mais.
Oui, bah oui.
Mais ouais, bah, ouais. C'est une 1,43ème.
Ouais, ça doit être une
mini champ.
Quoi que ce sera de toute façon made in Taïwan. Hein. <T'inquiète pas.
rire> Méditer.
Qui fait le featuring sur cette chanson?
Peut-être vous-même, si vous faites partie d'une secte et que vous adorez Skippy le grand gourou. Cultive tes références.
Ah, c'est beau.
Peut-être avez-vous envie de passer dans le SAV de la F1. Eh bien, dans ce cas-là, il suffit de dire pourquoi après tout. On a eu plein de monde. Pourquoi on n'aurait pas un gars qui viendrait d'une secte? Histoire de changer un peu.
C'est vrai, ça nous manque.
Je suis pas libre pour cette
mais...
Allez, ouais.
J'ai pas ce soir-là.
En vous les photos.
Donc si vous souhaitez participer, il suffit de nous envoyer un mail à contact@savf1.fr. Alors je pourrais pas vous dire quelles sont les places de libre parce que c'est Dino qui s'en occupe, mais n'hésitez pas à vous proposer, même si vous êtes passé. La seule règle, c'est que bien évidemment, s'il y a quelqu'un de nouveau, il passe en priorité devant ceux qui sont déjà passés. Mais je pense qu'il y a de la place jusqu'à la fin de la saison. Il y a pas de souci encore.
Il y a pas quelqu'un qui a
postulé
pour
la
Belgique. Si, il y a bien, mais il est déjà passé.
Dans les commentaires que.
Ah, il y a peut-être quelqu'un pour le Japon, mais c'était la semaine dernière. Ça a peut-être évolué depuis. Voilà. On vous rappelle, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, via nos comptes Twitter, que vous pouvez retrouver les liens de nos comptes Twitter sur le site savf1.fr et via le hashtag SAVF1, le nôtre. Il est à nous, ce hashtag. On en a
très actif en ce moment.
Messieurs, on vous rappelle, comme d'habitude, que la F1 sur Internet, c'est sur...
Pas nef1.com.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
La famille.
C'est sans Margot Lafitte cette semaine.
Oui, ça peut pas être non plus toutes les semaines avec Margot Lafitte.
Mais c'est rock'n'roll quand même.
Oui.
Ouais, c'est ça, c'est rock'n'roll quand même. Même sans guest, c'est rock'n'roll.
C'est un générique doux, délicat.
C'est une mission qui fait la promotion du disque de Lewis Hamilton.
Oui, parce qu'on est des vendus, bien évidemment.
Il faut citer 3 disques normalement. Donc on va faire aussi de la promo de suite Jacques Villeneuve ou...
La reprise de Kléderman par Sutil, exceptionnelle. Si je peux conseiller, tu sais, quelque chose à offrir.
Alors, comme la F1, le SAV va se mettre en pause. Hein, normalement, on va se retrouver pour le SAV d'après la Belgique. Donc, ça fait 3-4 semaines, normalement, de pause, ça. Je ne sais jamais.
Hey, ça fait...
Il y en a qui ont commencé la pause, déjà, hein.
Oui. Moi, je dis rien.
Alors, 2 semaines sans mag. Oh là là.
Ouais, mais en même temps, il va pas y avoir d'actu. C'est rien de faire des mags.
Bah, si. On pourrait faire une émission spéciale à Raikkonen chez Red Bull. Enfin, je veux dire, ça va arriver.
Imagine, ça c'est annoncé demain.
Ah oui,
on en parle dans un mois, quoi.
Ouais,
oui. Parce que la semaine prochaine sera le 13, début du mois ce sera passé, on doit faire.
Comme j'ai dit à ces chers monsieur, rien n'empêche s'il se passe quelque chose d'énorme de peut-être faire quelque chose avant. Mais normalement, le prochain SAV, c'est le SAV d'après le Grand Prix de Belgique. Donc sur ce.
Donc le 28 août.
À peu près, oui, par là.
Non, pas par là, j'ai les calendriers sous les yeux. Arrête de me contrarier.
J'ai pas, voilà.
En fait, je suis en train de te pourrir ta conclusion.
Tout ça pour se mettre en avant sur sa prestation.
Alors que l'intro s'était très bien passé.
On vous souhaite une bonne...
Non, parce que j'aurais une question pour...
Non, c'est pas vrai.
Allez, on vous souhaite une bonne pause à tous, de bonnes vacances pour ceux qui n'en ont pas encore pris.
Oh.
Bah oui, il y en a, ça existe. Aye.
Oui, je sais. Ça me paraît.
Hein? Messieurs, avant la pause, un dernier mot.
Corrite.
J'ai rien compris.
Turlupine.
Turlupine. Ah ouais.
Mais tu l'as déjà pas fait, celui-ci?
Peut-être. Moi, tu sais, j'ai qu'un seul mot à cette. J'ai qu'un seul mot qui me
C'est étonnant quand même que ce soit turlupine. Ben?
Frite.
Oh, le belge de service.
Bah, on se voit plus. Enfin, il n'y a plus de SAV avant le Grand Prix de Belgique. Donc, frite,
c'est vrai.
Tout. Bah, non, si tu veux, je peux encore rester 10 minutes et réfléchir.
Non, c'est bon, c'est bon.
Juste pour vraiment bien te pourrir ta conclusion.
Non, mais c'est bien, cette fois-ci, on n'aura pas à faire des faux démarrages génériques pour dire, mais ils ont dit au revoir.
Il était très bien fait, d'ailleurs. Il était très bien fait.
C'est ça, expérience dans le montage, on va faire le coup.
Oui. Fab.
Tiroir.
Eh bien, moi, ça sera Sparadra. Allez, ciao à tous, et à dans près d'un mois maintenant, dans trois semaines, un mois. Ciao.
Salut.
Ciao. Bonnes vacances.
Non, pas tous.
Bon ben, bonnes vacances à tout le monde, sauf à Gus.